Les chimpanzés mangent de la viande et des fruits et meurent pour le miel. Je n'ai pas entendu ça, je l'ai vu dans un film Nature sur les chimpanzés et puis je suis allé lire que c'était bien leur régime alimentaire. La loi Hawke fonctionne parfaitement ici. Oui, tout le monde a tort. J'ai des conclusions différentes, mais pour allier la famille, ils ont travaillé comme des fous. Si vous voulez savoir pourquoi les légumes sont des déchets, calmez-vous et lisez ou écoutez la fin. Un ami proche m'a dit que je vivrais peut-être jusqu'à 120 ans mais qu'il m'apprécie beaucoup plus aujourd'hui. Je n'ai pas répondu car cette chamaillerie m'agaçait, je l'avoue. Il n'a pas saisi l'idée. L'idée n'est pas de vivre jusqu'à 120 ans, l'idée est de se sentir bien tout le temps, d'avoir des pics d'énergie et de concentration, sans médecin ni tout le bagage qui nous accable avec une alimentation occidentale, de se sentir comme une coquille aujourd'hui et pas à l'âge de 90 ans. Et pourquoi tout le monde a tort? Parce qu'il y a une façon d'atteindre une alimentation adaptée et c'est par l'évolution et l'anthropologie avec une utilisation massive de la logique, c'est-à-dire la libre pensée. C'est une question de choix de chemin et non de sagesse. Tout ce que nous avons entendu ou avec lequel nous avons grandi doit être ignoré. C'est très difficile et peu sont capables de le faire. C'est facile pour moi parce que c'est naturel pour moi de penser librement. Comprendre la nutrition uniquement par la biologie ou la science mène à une impasse. Il y a quelques années, il était difficile d'obtenir des informations concentrées et fiables sur la nutrition, aujourd'hui c'est possible avec l'aide de Google, ChatGPT, Audible et livres Amazon. La plupart des régimes montrent une amélioration parce qu'ils suppriment les aliments transformés, mais cela ne suffit pas. Le problème, c'est que la renutrition à partir des aliments que nous consommons prend parfois des dizaines d'années, et puis il est difficile de comprendre ce qui l'a provoqué, cette intoxication est très lente. La grande merveille qui échappe à la logique, ce sont les toxines que l'on trouve principalement dans les légumes, les racines, les feuilles, les grains, les graines, les légumes et les graines mais aussi les fruits non mûrs ou non du type convenant à l'homme. Les plantes ne veulent pas que nous les mangions, elles sont différentes des animaux qui peuvent courir, leur façon d'éviter que ce soit des poisons. La plupart des toxines se trouvent dans la peau, les noyaux et les graines, donc la mastication des graines de fruits et de légumes provoque la libération des toxines. Le fruit veut que vous le mangiez mais pas pour détruire les graines en les mâchant, mâcher une amande par exemple libère du cyanure. La plante stocke le cyanure sous une forme inactive appelée glycoside cyanogène, qui est essentiellement une molécule de sucre avec un groupe cyanure qui lui est attaché par une triple liaison entre le carbone et l'azote. Ce glycoside est stocké dans un compartiment séparé de l'enzyme qui l'active. Lorsqu'un insecte ou un autre animal mâche la plante, les cellules sont écrasées et les deux produits chimiques se mélangent. L'enzyme sépare ensuite le cyanure du sucre, libérant le composé toxique. Ce processus est similaire à la rupture d'un bâton lumineux pour mélanger les produits chimiques qui le font briller. Ainsi, selon les types de graines, il est possible de comprendre à quels animaux le type de fruit s'est adapté au cours de l'évolution. Les graines de myrtille et autres, qui sont de petites graines, sont bien évidemment destinées aux oiseaux, puisque les humains les mâchent, les graines sont détruites, et il en ressort clairement que les avocats sont bons pour nous car leurs graines sont grosses et la peau est claire, et alors vous pouvez facilement éviter de les manger. La plupart des gens souffrent d'une maladie métabolique qui peut être guérie en passant à un régime libre pendant au moins un an. Il n'y a pas de sensibilité. Le saut dans ma compréhension s'est produit lorsque j'ai lu un article qui dit que le nombre de patients cœliaques dans le monde est en augmentation. Les patients cœliaques présentent des symptômes graves lorsqu'ils consomment des produits contenant du gluten. Le gluten est une toxine de la famille du blé, qui devrait empêcher divers insectes et ravageurs de manger les graines de blé. Ce qui me semblait illogique, c'est que l'humanité développe soudainement un problème pour un certain élément, cela n'a aucun sens probabiliste ou évolutif. Quelque chose doit changer. En effet, quelque chose a changé. Tout d'abord, les grandes entreprises semencières ont augmenté la quantité de gluten dans les graines de blé grâce à la sélection et au génie génétique, et ainsi la productivité des agriculteurs dans les champs a augmenté car moins de ravageurs nuisent au blé. Une augmentation du rendement des grains par acre de plus de 3 fois. Bien que ce ne soit pas seulement à cause d'une augmentation du gluten, mais à cause de cela il y a un effet énorme qui explique bien l'augmentation de la maladie cœliaque. Deuxièmement, la consommation de les produits à base de blé sont également en hausse et aujourd'hui, de nombreuses personnes consomment des produits à base de blé au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Les produits à base de blé comprennent le pain, les pâtes, les pâtisseries, etc. La libre pensée est venue quand il ne m'a pas semblé logique que seule une petite partie de la population soit sensible au gluten. Les patients cœliaques représentent 1% de la population et il y en a 10 autres pourcents définis comme « sensibles au gluten ». Il me semblerait beaucoup plus probable que le gluten ne soit bon pour personne, sauf pour certaines personnes présentant des symptômes graves et d'autres sans symptômes. Au fur et à mesure que j'en lisais plus à ce sujet, tout s'est mis en place. Il s'est avéré que le gluten est une toxine du blé et que la fermentation réduit la quantité de gluten. Je me souviens que j'ai lu dans votre livre qu'à Pessah, vous ne mangez pas de levain, ce qui signifie que le blé a été laissé de côté toute l'année, ce qui signifie que la quantité de toxine a été réduite. Il y a une bonne raison pour laquelle ils ont manqué le blé toute l'année, ce n'était pas une cérémonie religieuse. Ils ont probablement réalisé que de cette façon leur estomac ne leur faisait pas mal. Et puis la science, la logique et la raison évolutive se sont toutes réunies. La sensibilité au gluten n'existe pas, car le gluten n'est bon pour personne, bien qu'à des degrés divers. Je me suis souvenu quand j'étais à Curaçao, une île des Caraïbes, et tous les habitants de l'île étaient des gens énormes, ce qui est un mot doux pour lourd. La raison en est qu'ils ont été exposés au blé et à l'huile végétale pendant quelques années par rapport à la personne blanche et donc ils réagissent beaucoup plus fort que la personne blanche au régime occidental. L'homme blanc a subi une sorte de sélection naturelle pour ce régime, on peut maintenant aller plus loin dans la réflexion et généraliser avec des exceptions. Les aliments qui provoquent des sensibilités chez certaines personnes sont très susceptibles d'être toxiques pour tout le monde, mais à des degrés qu'on ne voit guère, mais au fil des années, ils causent d'énormes dommages à l'humanité. Et c'est exactement la libre pensée à son meilleur. Voici la liste des aliments auxquels beaucoup de gens sont sensibles et qui ne sont bons pour personne. Le blé, l'huile végétale, brûlure d'estomac, les cacahuètes, le lait de vache, maux d'estomac, les œufs industriels. Sucre, diabétique, et la maladie de Crohn et la colite, à mon avis, sont d'autres symptômes d'une sensibilité accrue, à des aliments qui ne conviennent pas à l'homme. Un passage à une alimentation libre conduira, et c'est mon pari, à la disparition de ces maladies. Et pas de blé, le cœur humain se régalera exprès. Je commence par ce qui est et ce qui n'est pas, car la réponse est généralement, il n'y a plus rien à manger. De tes colonies tu apporteras du pain. Du levain tu tourneras, et il lira le chapitre 23. Et le peuple emportait sa pâte, avant qu'elle ne soit levée. Les autres avaient un nœud dans leur robe, sur leurs épaules, Exode chapitre 12, le pain était si important pour eux qu'ils sont allés avec la pâte sur eux. Je n'écris pas dans une section religieuse, c'est pour montrer à quel point c'était important et aujourd'hui tout le monde l'a oublié. Biologiquement, la fermentation décompose les toxines des grains pour empêcher les parasites de les manger. Ces toxines agissent sur les humains pendant des années jusqu'à ce que des maladies apparaissent. Les premières preuves archéologiques de la cuisson du pain et de l'utilisation du levain se trouvent dans le nord-est de la Jordanie et remontent à 16 000 ans avant notre ère, soit environ 4 000 ans avant la culture du blé. La farine de ces pains était composée principalement de blé sauvage peint au teff, le plus recommandé des grains pour faire du pain pita. Comme les Éthiopiens se préparent aujourd'hui et se sont préparés dans le passé, uniquement en les faisant mariner avec de l'eau. Très facile à réaliser soi-même. Les Éthiopiens ne sont pas seulement un beau peuple. Mettez de la farine et de l'eau seulement pendant 2 jours à l'extérieur. Après 2 jours, vous pouvez en faire du pain frais tous les jours. Nécessite un chauffage pendant 25 minutes à 180 degrés. Lorsque vous ajoutez de la farine au levain, il est préférable d'attendre une journée pour que la farine fermente. Vous devez toujours laisser une partie de la farine lever, puis l'action de levage se produit rapidement avec la nouvelle farine. Le teff est un petit grain. Lorsque j'exerce la libre pensée, il est plus logique que les graines qui en contiennent d'énormes quantités soient moins toxiques que les graines plus grosses. Car lorsqu'il y a des millions d'individus, chaque individu a une chance de survie relativement faible, il n'est donc pas nécessaire d'empoisonner tous les grains comme un gros grain de blé par exemple. Vous le voyez dans les œufs de poisson, les chances qu'un œuf survive sont très faibles, mais il y en a des milliers, et bien que l'œuf soit très vulnérable, la culture est possible en raison de l'énorme quantité d'œufs de poisson. Comme mentionné, il s'agit d'un pari et non d'une théorie scientifique. Comme la plupart des choses dans la nature, l'utilisation des céréales pour l'alimentation a été progressive. Cette étude explique pourquoi il est important de tremper et tremper les grains. L'épeautre, l'orge, le seigle sont tous similaires au blé et sont très problématiques en raison des modifications génétiques qui leur ont été apportées au fil des ans ainsi que des toxines qu'ils contiennent telles que le gluten et l'agglutinine conçues pour empêcher les animaux de manger les grains de blé. Les humains ont subi une sélection, évolution, pour s'adapter au pain mais pas complètement parce que ces pains nous tuent lentement, surtout quand vous ne les manquez pas, et nous tuent à des âges plus avancés donc il n'y a pas d'adaptation évolutive. Les pains du passé étaient levés, nous savons aussi cela selon la tradition juive qu'à la Pâque, ils ne mangent pas de nourriture au levain, et de cela nous pouvons conclure avec assez de certitude que pendant le reste de l'année, il mangeait de la nourriture au levain, et il n'a pas mangé d'aliments au levain à cause du goût, mais pour qu'il soit facilement digéré. Tout comme le tabagisme, il est connu pour tuer et les gens ont fumé des milliers d'années, tabac et autres, mais fumer tue à un âge relativement avancé, il n'y a donc vraiment pas de force de sélection évolutive. Le problème avec les céréales est qu'elles proviennent de plantes et qu'elles contiennent donc des toxines pour empêcher les ravageurs de les manger. Ces toxines provoquent de nombreuses maladies auto-immunes. L'acidification neutralise une grande partie des toxines. À noter qu'il n'y a quasiment pas de pain au levain dans les supermarchés, malheureusement, les céréales contiennent naturellement des toxines pour empêcher les nuisibles de les manger. L'amélioration génétique et manuelle intensifie les toxines car les toxines contribuent à l'objectif des entreprises semencières, plus de rendement par acre, car les ravageurs ne mangent pas le blé lorsqu'il contient beaucoup de toxines. Il est recommandé d'éviter complètement tous les produits à base de blé. Le blé est regorgeant de toxines telles que l'agglutinine et le gluten et aussi à cause de l'amélioration génétique qu'ils lui ont apportée. Il vaut mieux éviter complètement le pain, les pâtes, les collations, etc. Raison d'éviter complètement les produits à base de blé. Le teff est beaucoup plus facile à préparer et à lever et aussi plus savoureux. Le blé a subi des modifications génétiques et des améliorations régulières pour augmenter le rendement au champ. En pratique, ils ont augmenté la quantité de toxines naturelles dans le blé, les mêmes toxines qui nuisent aux parasites mais qui empoisonnent également les humains. Dans le blé, le gluten, toxine, endommage la fonction intestinale de tous les humains, mais surtout chez les patients cœliaques. Dans le blé, les substances, toxines, qui endommagent le mécanisme de régulation du sucre de l'organisme dans le blé, des substances qui endommagent la sensation de faim et endommagent le métabolisme dans le pain normal que vous achetez. La farine n'a pas été acidifiée, on a ajouté de l'huile végétale qui est tout aussi toxique que le blé, sucre, sel, et parfois nous pêchons en ajoutant du gluten, une toxine appelée lectine, dans le blé, des toxines qui endommagent le mécanisme de stockage des graisses du corps. C'est exactement pourquoi les bovins reçoivent du blé et des céréales pour les engraisser. Fruits mûrs avec un peu de fructose, oui avocat, oui abricot, oui clémentine, oui banane, oui plantain. Puis, oui, nous sommes attirés par le sucré non pas parce qu'il est riche en calories, comme on le croit généralement, puisque le gras contient en fait plus de calories que le sucre. Au lieu de cela, dans la nature, la douceur est un symbole de non-toxicité. Les fruits ne deviennent sucrés qu'une fois mûrs, ce qui indique qu'ils peuvent être consommés sans danger. Cependant, il est important de choisir des fruits qui neutralisent les toxines et produisent de la douceur. Pourquoi des fruits avec beaucoup de fructose? La teneur en fructose des fruits domestiques et modernes est généralement plus élevée que celle de leurs homologues sauvages. Les humains se sont bien sûr adaptés aux fruits sauvages. Cela est dû à plusieurs facteurs. Plus élevage sélectif. Pendant des générations, les humains ont sélectionné des fruits de manière sélective pour qu'ils soient plus gros, plus sucrés et plus savoureux. Cela a conduit à une augmentation de la teneur en sucre, y compris en fructose, dans de nombreux fruits cultivés par rapport à leurs ancêtres sauvages. Plus pratiques agricoles, les techniques agricoles modernes, telles que l'utilisation d'engrais, de pesticides et d'irrigation, ont permis une production de fruits. Ces pratiques peuvent contribuer à une augmentation de la taille des fruits et de leur teneur en sucre, y compris en fructose. Plus modifications génétiques. Dans certains cas, le fruit a été génétiquement modifié pour améliorer des caractéristiques spécifiques, telles que la douceur ou la taille. Cela peut conduire à une teneur en fructose plus élevée dans les variétés génétiquement modifiées par rapport à leurs parents sauvages. Plus mûrissement et stockage. Les fruits sont souvent cueillis lorsqu'ils ne sont pas complètement mûrs, puis mûrissent pendant le transport ou le stockage. Cela peut conduire à un profil de sucre différent, y compris des niveaux de fructose plus élevés, par rapport aux fruits qui mûrissent naturellement sur la plante. Au cours de centaines de milliers d'années d'évolution, nous avons été exposés à peu de fructose, d'où le problème. Dans les yaourts et les produits laitiers fermentés, il y a des bactéries intestinales qui aident également à décomposer le fructose, il est donc recommandé de manger des fruits avec eux pour ceux qui souffrent d'un problème de digestion du fructose. Bifidobacterium, Lactobacillus. Les fruits ne deviennent sucrés qu'après avoir mûri pour indiquer qu'ils ne sont pas toxiques. Il existe un processus dans les fruits qui neutralise les toxines et produit de la douceur. Chaque fruit s'est adapté avant la captivité à un animal spécifique ou à un nombre d'animaux. À partir de là, vous pouvez comprendre si le fruit nous convient ou non et quand. La science des fruits mûrs spécifiques est la nourriture la plus ancienne pour les humains et les singes. Les humains ont évolué pour pouvoir consommer et digérer une grande variété d'aliments, y compris des fruits et d'autres sources de fructose. Cependant, il convient de noter que le régime alimentaire et l'environnement humain ont considérablement changé au fil du temps et que le régime alimentaire moderne contient des niveaux de fructose beaucoup plus élevés que ceux consommés par nos ancêtres. Il y a du fructose dans les fruits et la science montre, contrairement à la logique, que des concentrations élevées de fructose ne sont pas saines pour nous. Il existe une enzyme appelée proctorine ou assistant d'absorption GLUT5 qui, chez certaines personnes, est moins produite au fil des ans et peut entraîner des problèmes de nombreux fruits. Il existe de nombreuses études sur le fructose et ses effets sur la santé humaine. Voici quelques conclusions clés. Une consommation excessive de fructose, en particulier sous forme de sucres ajoutés dans les aliments et boissons transformés, a été associée à un risque accru d'obésité, de diabète de type 2 et d'autres troubles métaboliques. Le fructose est métabolisé différemment du glucose et peut entraîner une augmentation de la résistance à l'insuline et une augmentation de la glycémie, en particulier lorsqu'il est consommé en grande quantité. Certaines études suggèrent que la consommation de fructose peut augmenter le risque de stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD, une condition dans laquelle la graisse s'accumule dans le foie et peut entraîner des lésions hépatiques. Des niveaux élevés de consommation de fructose ont été associés à une augmentation de l'inflammation et du stress oxydatif dans le corps, ce qui peut contribuer au développement de maladies chroniques. Certaines études ont suggéré que la consommation de fructose sous forme de fruits entiers peut être moins nocive que sa consommation sous forme de sucres ajoutés, car les fibres et autres nutriments contenus dans les fruits entiers peuvent aider à réduire certains des effets négatifs du fructose. Les fruits dans la nature nous tueront si nous en mangeons suffisamment. Les fruits convenant à la consommation humaine représentent une très petite partie des fruits dans la nature. L'erreur courante est lorsque vous voyez un fruit mûr dans un supermarché, mais il n'a bon goût et a bonne apparence que parce qu'il a été cueilli sur l'arbre non mûr et cuit au gaz éthylène ou d'une autre manière non naturelle. Les fruits mûrs et légèrement pourris sont meilleurs pour nous que les fruits parfaits, qui n'ont pas été mangés par divers parasites et qui ont été cueillis non mûrs. Les toxines, principalement dans la peau et les graines, dans le fruit non mûr peuvent provoquer une inflammation de l'appendice et une foule d'autres problèmes. Elles sont conçues pour empêcher de manger le fruit avant qu'il ne mûrisse car sinon l'arbre ne se reproduira pas. Lorsque la graine dans le fruit est fertile, le fruit est mûr après un processus chimique complexe. Fruits qui doivent être cueillis lorsqu'ils sont relativement mûrs et donc sans danger. Myrtille, fraise des bois, canneberge, avocat, ananas, orange, clémentine, citron, raisin rouge. Fruits qui sont généralement cuits avec du gaz éthylène et qu'il est donc recommandé d'éviter, sauf s'ils sont cueillis mûrs sur l'arbre. Pastèque, melon, mangue, pêche, figue, prune, kiwi, banane, litchi et autres. Dans les fruits non mûrs, le chauffage et la cuisson réduiront les toxines mais ne les augmenteront pas. Il est recommandé de ne pas manger la peau du fruit et de ne pas mâcher les graines. Notez que les graines de fruits ont un goût amer car elles sont toxiques pour nous. Fruits qui reconnaissent la graine et ne la mâchent pas sont recommandés. Plantain cuit ou au four avocat. Ils devraient être mûrs avant. Il n'y a rien à craindre des fruits trop mûrs. C'est précisément pourquoi la capacité des humains à décomposer l'alcool, un sous-produit des fruits mûrs, s'est développée. Cela montre aussi que nous sommes adaptés à manger des fruits mûrs et même légèrement pourris. Bottom line, les humains sont adaptés pour manger des fruits mûrs sucrés avec une tendance à pourrir, exactement le contraire des beaux fruits non mûrs qui sont vendus au supermarché. Miel, oui, le miel, non transformé, comme le lait, est destiné à la consommation, par les abeilles, et ne contient pas de toxines. Depuis les temps anciens, il était utilisé pour soigner les blessures. D'après mon expérience, cela fonctionne mieux que l'iode. Bon point. Les fleurs veulent que les abeilles leur prennent le nectar et pollinisent ainsi la plante. Cela se produit lorsque la fleur veut être pollinisée et que l'abeille reconnaît le moment où le nectar est non toxique. Vous devez juste faire attention car il contient beaucoup de fructose. Oui, et j'éviterai complètement les œufs de poule pour les raisons suivantes. À moins que le poulet ne mange des insectes et que sa nourriture naturelle ne soit en plein air. Les œufs provoquent des symptômes différents chez de nombreuses personnes et sensibilités. Il y a généralement une raison à cela. Les poulets ne mangent pas la nourriture qu'ils sont censés manger et ne sont pas là où ils sont censés vivre. Cela se reflète certainement dans la qualité des œufs. Tous les aliments industrialisés dans le monde ne conviennent probablement pas aux humains. Les œufs figurent également sur la liste. Dans le processus d'élevage de poulets pour pondre beaucoup d'œufs, le matériau contenu dans les œufs est également changé, de sorte que les humains n'y ont pas été exposés. Un processus similaire s'est produit avec le blé pour empêcher les parasites de le manger. Je n'ai pas testé scientifiquement, mais j'ai vu que les poulets vivent dans des conditions de captivité difficiles de saleté, de maladies et de blessures graves. Il est possible que la coquille de l'œuf ne soit pas scellée et qu'elle absorbe des substances toxiques. De plus, les poulets reçoivent régulièrement de grandes quantités d'antibiotiques pour prévenir la morbidité. Produits laitiers ? Oui, uniquement issus de chèvres, uniquement des produits laitiers de chèvre et de préférence acidulés, fermentés ou affinés. Yaourt, beurre, fromage et kéfir. L'acidification du lait le rend beaucoup plus adapté à l'homme. Contrairement aux végétaux, le lait est destiné à la consommation mais pas à l'homme, en même temps la logique veut qu'il soit propre à l'homme. La fermentation du lait peut le rendre plus bénéfique pour les humains de plusieurs façons. En voici quelques raisons. 1. Amélioration de la digestion. Le lait fermenté contient des bactéries bénéfiques appelées probiotiques, qui aident à décomposer le lactose et facilitent la digestion. Ceci est particulièrement important pour les personnes intolérantes au lactose, car elles sont incapables de digérer elles-mêmes le lactose. 2. Augmentation de la disponibilité des nutriments. La fermentation peut augmenter la disponibilité de certains nutriments dans le lait, comme la vitamine B12 et le folate. Ces nutriments sont importants pour la santé et le bien-être en général. 3. Teneur en lactose réduite. Le processus de fermentation réduit également la teneur en lactose du lait, ce qui le rend plus tolérable pour les personnes intolérantes au lactose. Amélioration du goût et de la texture. Produits laitiers fermentés, tels que le yogourt et le kéfir, ont souvent une saveur et une texture acidulée et crémeuse que beaucoup de gens apprécient. Dans l'ensemble, la fermentation du lait peut le rendre plus nutritif, plus facile à digérer et plus agréable à consommer. Mieux vaut éviter complètement les produits à base de lait de vache. Il est important que les produits laitiers proviennent de pâturage naturel et non du type de mélange que les animaux reçoivent dans les cages. Raison de X sur tous les produits à base de lait de vache, contient une grande quantité de protéines bêta-caïzana 1. Les humains ont mangé la plupart des années d'évolution bêta-caïzana 2. Bêta-CASOMORPHINE7-BCM7 est un peptide produit lorsque la bêta-caséine A1 est digérée dans le système digestif. Il a été démontré que le BCM7 a des effets similaires aux opioïdes, ce qui signifie qu'il peut se lier aux récepteurs opioïdes du cerveau et du système nerveux. Certaines études ont suggéré que le BCM7 pourrait être associé à divers problèmes de santé, tels que l'inconfort gastro-intestinal, l'inflammation, les troubles neurologiques et les maladies cardiaques. Il convient de noter que le BCM7 n'est pas présent dans la caséine bêta A2, c'est pourquoi certaines personnes peuvent choisir de consommer du lait A2 comme alternative au lait de vache traditionnel qui contient de la caséine bêta A1 et A2. Le lait de vache est complètement industrialisé. Tous les aliments industrialisés, soja, blé, maïs, avoine, lait de vache, œufs, ne sont pas bons pour nous à la fois dans la recherche et logiquement. C'est à un niveau probabiliste. Une vache reçoit de la nourriture qui ne lui permet pas de produire beaucoup de lait et a également grandi dans des conditions abusives. Une étude qui a comparé la tribu Maasai qui mangeait de la viande et du lait de vache à une tribu similaire qui était végétarienne. Légumes et feuilles. Il est préférable d'embusquer les légumes et les feuilles avec des toxines et des agents d'absorption antiminéraux qui nous sont nocifs. La plupart des légumes sont amers ou acides, ils nous signalent ainsi qu'aux autres animaux de ne pas les manger. Si vous insistez pour manger des légumes, ne les cuisez que très bien. Il ne sert à rien de manger des légumes en pensant qu'ils sont sains pour nous, c'est le contraire qui est vrai. Il n'y a pas d'aliments sains, il y a des aliments qui nous conviennent et les légumes et les feuilles ne faisaient partie de l'alimentation humaine que pendant les pénuries alimentaires et non par libre choix. Légumes à éviter : concombres, pommes de terre, maïs, tomates, aubergines, poivrons, potirons et courgettes. Il vaut mieux cuire à la vapeur. Un article sur les légumes et les feuilles. Raison d'éviter les légumes et les feuilles. Les humains ne mangeaient guère de légumes et de feuilles dans les années anciennes, ceci à des fins médicinales ou lorsqu'il n'y avait pas le choix. Légumes amers ou aigres, et c'est un signe naturel de toxicité dans les plantes, il existe de nombreux types de poisons, inhibiteur de nutriments, lectine, oxalate, tanin, inhibiteur de protéase, acide phytique, cyanure, perturbateurs hormonaux. Les plantes veulent vous tuer? Les plantes ne peuvent pas fuir comme les autres animaux? Ils ont donc développé un mécanisme pour les empêcher de manger principalement par des toxines et c'est le principal moyen de défense. La science le montre et la logique, le mécanisme de défense des plantes n'a pas été développé pour empêcher l'homme de les manger, mais les petits insectes et animaux, donc l'effet de ces toxines est souvent trop lent pour lier que cette nourriture ne convient pas à l'homme. La cuisson et le chauffage, un mécanisme que les plantes n'ont pas rencontré dans l'évolution, détruisent une grande partie des toxines mais pas toutes. Tous les nutriments se trouvent dans la viande, le poisson, le lait et certains fruits. Cela montre que ce sont les nutriments sur lesquels nous nous sommes construits. Les minéraux et les vitamines des plantes sont moins bien absorbés que la viande et le poisson. Par exemple, le fer provenant d'une source de viande, M. iron, est bien mieux absorbé que le fer d'une source végétale, non M. Explication sur le fer. La plupart des plantes tuent la plupart des animaux. Une petite partie des plantes est mangée par une petite partie des animaux. Un koala doit manger une feuille d'eucalyptus et neutraliser ses toxines. Tout autre régime tuera le koala et les feuilles de l'arbre qu'il mange empoisonneront le reste des animaux, y compris nous. Nous devons considérer les plantes comme des médicaments à petite dose et avec beaucoup de soins et uniquement en cas de maladie. Les plantes ont des inhibiteurs d'absorption de minéraux importants. Le chou, par exemple, perturbe la glande thyroïde et son traitement à l'iode. Il est logique que nous n'ayons pas besoin de feuilles car elles manquent de calories. Épinards, chou frisé, bok choy, laitue et toutes les feuilles vertes. Graines, certains des aliments qui nous sont nocifs principalement à cause des mécanismes de défense naturelle des graines. Vous avez besoin de trempage, d'acidification, de germination et de cuisson pour réduire les toxines. Les lectines font partie des toxines végétales. Il est recommandé d'éviter vraiment lin, pavot, chia, sésame et tahini. Riz, uniquement pour les Asiatiques, le riz est le genre de grain qui ne vous manque pas, mais il contient des toxines connues qui ne se décomposent pas simplement en chauffant. De plus, les Asiatiques ont probablement développé un système digestif plus adapté à la digestion du riz après y avoir été exposés pendant des milliers d'années de plus que l'homme blanc. Un exemple d'adaptation génétique dans certaines populations asiatiques en raison d'une exposition alimentaire spécifique est la prévalence accrue d'ALDE2x2, une variante du gène de l'aldéhyde déshydrogénase 2, ALDH2. Ce trait génétique est associé à une capacité réduite à métaboliser l'alcool, conduisant à une condition connue sous le nom de réaction à l'alcool ou lavage asiatique. La variante se trouve le plus souvent dans les populations d'Asie de l'Est, y compris celles d'origine chinoise, japonaise et coréenne. La prévalence de ce trait génétique peut être liée à la consommation historique d'alcool à base de riz, comme le saké et le soju, qui ont une teneur en alcool relativement faible par rapport aux autres boissons alcoolisées. La capacité réduite à métaboliser l'alcool peut avoir un effet protecteur contre la consommation excessive d'alcool et les problèmes de santé liés à l'alcool dans ces populations. Des études montrent que les Asiatiques sont plus sensibles au lait parce qu'ils n'y ont pas été exposés comme les Blancs. La prévalence de l'intolérance au lactose varie selon les populations et les groupes ethniques. En général, les populations d'Asie de l'Est ont tendance à avoir une incidence plus élevée d'intolérance au lactose que les populations d'origine européenne. On estime qu'environ 70 à 100% des Asiatiques de l'Est souffrent d'intolérance au lactose, tandis que la prévalence chez les personnes d'origine européenne est plus faible, allant de 5% à 20%. La lectine présente dans le riz est appelée « Oryza sativa agglutinin » ou « agglutinine de riz ». Cette protéine peut se lier à des molécules de sucre spécifiques et est impliquée dans diverses fonctions biologiques au sein de la plante et est conçue pour empêcher les ravageurs de manger les graines de riz. L'agglutinine de riz se trouve principalement dans les couches externes des grains de riz, comme le sont. Tout comme le gluten, il est probablement nocif pour les humains. Dans une pensée complètement libre, parce qu'il y avait des changements génétiques chez la personne blanche et non les Asiatiques en fonction de l'exposition à un certain aliment, l'inverse s'est également produit. C'est-à-dire que les Asiatiques avaient des changements génétiques à favoriser la digestion du riz. Voici une étude selon laquelle les Asiatiques avaient un changement génétique dans la digestion des algues. De plus, le riz n'est pas acidifié et est connu pour contenir une toxine appelée « agglutinine ». Lorsqu'on le recoupe avec le fait que le riz me met mal à l'aise, on peut conclure avec une forte probabilité que le riz ne convient pas à la personne blanche ou pour une personne dont les ancêtres n'ont pas été exposés au riz racine. toutes les racines contiennent des toxines qui doivent être neutralisées. Pas bon pour tout le monde, mais si c'est le cas, il suffit de le cuire à la vapeur ou à la vapeur. Patates douces, topinambour, artichaut. Dans le doute, oignon, ail, échalote, poireau, fenouil, radis et tous les champignons, racines de yucca. La logique est simple, les racines de l'évolution ont ajouté des toxines qui empêchent les parasites de les manger. Le chauffage et la cuisson réduisent probablement la plupart des toxines, mais chez les personnes dont les intestins sont endommagés, ces toxines causeront de graves dommages à divers systèmes du corps. Sel, éviter autant que possible tous les types de sel. Les humains se sont bien entendus pendant des millions d'années sans ajouter de sel. Ma vie parmi les Indiens, page 82, je n'ai jamais rencontré d'Indien qui utilise une sorte de sel, pas même pour sécher la viande. Selon la loi de la charge de la preuve, il est très probable que l'ajout d'un nouvel ingrédient à le menu humain nuit à la santé. Le sel est ajouté au menu depuis des milliers d'années et de manière toujours croissante ces dernières années, pour tous les types d'aliments. Des recherches qui montrent comment le sel endommage le système digestif et les bonnes bactéries dans les intestins. Le sel naturel ajoute à la fraîcheur de la nourriture et est probablement nocif pour nous. Le sel traité, il est probable que ce soit le sel bon marché que vous consommez, est encore plus nocif pour nous. Une question intéressante est, notre amour pour le sel est-il est-ce un goût acquis ou inhérent à nous? D'après les recherches liées ci-dessus, il semble que l'amour des aliments salés soit acquis et que nous n'ayons donc aucun besoin réel de saler les aliments autre que le désir de conserver les aliments. Pendant la plupart des années d'évolution, nous n'avons pas mangé de sel, donc la conclusion logique est que nous n'avons pas besoin de sel et que cela nuit aux millions de processus dans le corps humain selon l'outil 7 dans Tools for Freedom. Tous les types de noix, ils n'ont pas de coque et un peu de coque à cause de l'acide phytique, à l'exception des cacahuètes et de leurs noix qui sont des légumineuses, et laquelle d'entre elles vaut mieux éviter. Il vaut mieux faire tremper une journée dans de l'eau salée et séchée, c'est comme ça qu'ils mangeaient autrefois. Légumineuses, préférez réduire la consommation de pois chiches, haricots, lentilles, etc. ou tremper pendant 24 heures et cuire pendant 3 heures. Des études montrent que toutes les personnes ne digèrent pas les différents types d'aliments de la même manière, les Asiatiques étant plus adaptés aux algues et au riz par exemple de l'homme européen. Il est possible que certaines personnes sachent comment éviter les toxines des légumineuses provenant de régions du monde où elles y ont probablement été exposées. Je suis sûr que je ne suis pas parmi eux. Algues, pour éclaircir les algues comme les légumes et les feuilles. Si quoi que ce soit, faites bouillir tous les types d'algues dans l'eau pendant quelques minutes, il est recommandé de vérifier que vous n'êtes pas sensible aux algues, toutes les personnes n'ont pas une quantité suffisante d'enzymes et de bactéries intestinales adaptées pour décomposer les algues de manière satisfaisante. Drogue et alcool, le problème avec les drogues, c'est qu'elles jouent avec notre organe le plus important, le cerveau. C'est pourquoi je recommanderais de ne pas jouer avec n'importe quel type de drogue. Il est assez clair que les drogues causent des dommages à long terme à notre cerveau. Une quantité modérée d'alcool est acceptable. Ce n'est pas pour rien que la drogue et l'alcool sont impliqués dans la plupart des crimes les plus violents et les plus brutaux. Évitez à tout prix tous les produits à base de blé sans levain, pain, sarrasin, pâte, pâtisserie, toutes les huiles, les œufs, le lait de vache, le sel transformé, les conservateurs. Maïs, avoine, sucre, haricots, arachides, pommes de terre, succédanées du sucre, caféine, antibiotiques et réducteurs d'acide gastrique. Aussi, évitez complètement les substituts de viande, le pain et le lait sont complètement transformés et beaucoup moins bons pour nous que l'original. Seule évolution avec raison. Toutes les tentatives pour parvenir à une alimentation adaptée à l'homme ont échoué car elles ont essayé de passer par la science ou par l'émotion. Essayez de comprendre, qu'est-ce qui est sain? Mais la solution ne vient que par l'évolution, l'histoire de l'homme, l'homme-singe, et l'exercice de la logique car nous n'avons aucun moyen de savoir exactement ce qu'ils ont mangé et en quelle quantité. Et principalement à travers l'évolution et l'anthropologie ainsi qu'à l'aide d'auto-expérimentation, d'études de lecture de livres, de libre pensée et d'observation de la nature. Chaque animal, y compris les humains, doit manger ce qu'il a mangé dans son passé. Nous savons aujourd'hui quel était le régime alimentaire de l'homme antique d'après les restes trouvés sur les dents de squelette, ainsi que par l'étude en observant les tribus qui vivent aujourd'hui dans différentes parties du monde. Imaginez une personne se promenant à l'extérieur, le plus disponible la nourriture pour lui est les animaux. des plus petits animaux comme les insectes aux plus gros comme les cerfs. Dans le reste des aliments, nous sommes en concurrence avec les oiseaux et divers ravageurs qui les ont mangés avant nous, comme la guerre des fruits contre les oiseaux. En effet, la plupart des fruits sont adaptés pour être mangés par les oiseaux. Vous n'avez pas besoin de sagesse pour manger une pomme, mais il faut de la sagesse pour chasser un écureuil ou un cerf, et donc on voit le développement du cerveau humain dans le temps. Tant en termes d'adaptation à un cadre de vie de plus en plus difficile qu'en termes de le besoin de coopération dans la chasse. Nous étions séparés, nous avons inventé l'agriculture et nous nous sommes unis. Les humains ont quitté l'Afrique en plusieurs vagues, il y a environ 100 000 ans, les humains se sont dispersés dans le monde entier et, ces dernières années, ils se sont réunis grâce au vol et au commerce. La révolution agricole s'est produite il y a 9000 ans après notre séparation. Cela signifie nécessairement qu'il y a eu une adaptation individuelle au milieu et à l'alimentation, car il y a eu soi-disant une longue séparation entre les différents groupes sans trop de mélange, ainsi que l'invention de méthodes agricoles et l'élevage d'animaux et de plantes. C'est pourquoi nous voyons différents tons de peau, une adaptation à différents aires minces et de nombreuses autres caractéristiques que l'évolution a dû adapter aux différentes conditions environnementales et sociales. Il y a trois types d'aliments. Bon pour tout le monde, le régime avec lequel nous avons quitté l'Afrique, bon pour certaines personnes, un régime auquel certains se sont adaptés au fil des ans comme les haricots et les Sud-Américains. Pas bon pour personne, un régime que personne s'est adapté à. Il est préférable de s'en tenir à ce que les humains ont mangé depuis l'Antiquité, c'est-à-dire la nourriture la plus ancienne, bonne pour tout le monde, fruits, poissons, viande et miel et ensuite seulement céréales de toutes sortes, bonnes pour certaines personnes. Les graisses, non animales, ne sont bonnes pour personne. Empoisonnement ou simple vieillissement, quand on analyse les données sur la répartition des maladies dans la société occidentale, on ne peut s'empêcher de voir les symptômes d'empoisonnement, selon moi par les toxines des plantes, diabète, artériosclérose, arthrite, obésité et un autre l'apparition de ces maladies mais aussi chez les chasseurs de 30 à 40 ans auraient dû voir les signes de ces maladies mais ils n'en voient pas même dans les tribus préservées. Aujourd'hui, nous vivons très vieux et voyons donc probablement l'effet des toxines de la nourriture. Ici, vous lirez un article où il est clair que l'écrivain devine quoi manger. Il n'y a pas de pensée libre ici. Le véganisme est le contraire d'une alimentation libre, à mon avis, car bien qu'il ait une logique, de la compassion pour les animaux et la préservation de l'environnement pour ainsi dire, il ne convient pas aux humains car il contient des toxines végétales. Le végétalisme, comme d'autres types de nutrition, est très précieux lorsqu'il n'inclut pas les aliments transformés et le sucre. D'après toutes les informations que j'ai vues et analysées, l'homme est fait pour manger principalement des animaux, nous considérons qu'il est agréable que la viande et les graisses n'augmentent pas notre taux de sucre, pour les humains, un taux élevé de sucre est destructeur pour tous les systèmes de l'organisme. La question importante est de savoir depuis combien d'années nous avons été exposés à cet aliment. La viande est entrée dans notre alimentation il y a quelques millions d'années, le pain il y a 7000 ans et l'huile de canola seulement il y a 40 ans, il est donc assez clair quelles sont les chances de compatibilité pour chacun de ces aliments. De plus, les humains ont migré et se sont dispersés à travers le monde et ainsi leur régime alimentaire a été adapté à l'endroit où ils se trouvaient, et pas nécessairement à ce qu'ils étaient censés manger, par exemple en Amérique du Sud, le régime était principalement composé de maïs et de pommes de terre par rapport au Japon où le régime alimentaire était du poisson et du riz. En effet, on constate de grandes différences dans l'espérance de vie des Japonais par rapport aux Sud-Américains, dans l'Antiquité et encore aujourd'hui. Le riz est un excellent exemple d'un aliment spécifique auquel seuls les Asiatiques ont été exposés. Une étude qui montre qu'il existe une différence entre les humains au niveau du système digestif ainsi qu'une étude qui montre la capacité à digérer les algues pour les Asiatiques. Aujourd'hui, nous savons que le maïs et les pommes de terre contiennent de nombreuses toxines et cela a du sens car ils ont développé des mécanismes de défense contre les ravageurs. Une pomme de terre n'a pas de période où elle « veut » que les parasites la mangent, similaire aux fruits. La science montre que la cuisson n'élimine pas toutes les toxines de la pomme de terre, même si bien sûr, l'astuce « du chauffage » n'a pas été prise en compte dans l'évolution de la pomme de terre. Lorsque les humains ont commencé à utiliser le feu pour cuisiner et rôtir les aliments, leur menu s'est donc élargi à racines, légumes, légumineuses, etc. Des aliments qu'ils ne mangeraient pas sans l'utilisation du feu. Bien sûr, le chauffage n'éliminant pas toutes les toxines des plantes, des méthodes supplémentaires ont donc été développées telles que le trempage, la germination et la fermentation afin de pouvoir consommer ces aliments. L'empoisonnement peut faire n'importe quoi et donner ses signaux à tout moment. À mon avis, l'humanité tout entière est empoisonnée par les toxines végétales. Il est impossible que les humains mangent autant de types de plantes lorsque chaque plante contient des centaines ou des dizaines de toxines différentes. Ce n'est pas un hasard si les enfants n'aiment pas les légumes et les feuilles, ils montrent souvent une aversion naturelle pour les saveurs amères, épicées et acides. Qui montre probablement une toxicité, donc l'aversion pour les saveurs s'est développée grâce à la déesse de la sélection naturelle. Notre instinct naturel est de ne pas aimer le piquant, l'amer et l'acide car ils symbolisent la toxicité, le sucré et le gras symbolisent le prêt à manger et c'est essentiel à la libre réflexion sur la nutrition. Une préférence instinctive pour les goûts sucrés et gras peut refléter une volonté de consommer des aliments sûrs et faciles à digérer. Les chasseurs-cueilleurs, qui vivaient avant l'avènement de l'agriculture, semblent avoir moins de maladies chroniques qui affligent les sociétés modernes. De nombreux chercheurs pensent que leur santé s'est détériorée une fois qu'ils ont adopté des méthodes agricoles, ce qui suggère que le changement de mode de vie agricole a pu avoir des conséquences indésirables sur la santé humaine, similaires à une intoxication lente et pas seulement aux effets du vieillissement. De la vie sauvage à la vie moderne sont les plus vulnérables à l'alimentation moderne car ils n'y ont pas été exposés comme nous pendant plusieurs milliers d'années et n'ont donc pas subi d'ajustements génétiques appropriés. Par exemple, les autochtones sont beaucoup plus vulnérables au diabète, à l'hypertension artérielle, aux problèmes cardiaques et plus encore. Cela montre que le régime alimentaire moderne n'est fondamentalement bon pour personne, mais pour ceux qui n'ont pas été exposés depuis des milliers d'années, il est encore plus nocif. Les Amérindiens sont plus sensibles à l'alcool parce qu'ils n'avaient pas le choix. L'introduction évolutive, mais l'homme blanc souffrait également d'une telle dépendance et nuisait à sa capacité d'avoir des enfants. Avant la révolution agricole, les humains comptaient sur un régime composé de fruits et de protéines animales, qui fournissait une variété équilibrée de nutriments. Certaines preuves suggèrent qu'ils avaient des os plus solides, des dents plus saines et une incidence plus faible de maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques que les humains modernes. Cependant, avec la transition vers l'agriculture, le régime alimentaire humain s'est davantage concentré sur les céréales, les fruits et les plantes, entraînant une augmentation de la consommation de glucides. Point. Ce changement dans les habitudes alimentaires a contribué à une baisse de la santé globale, car les gens sont devenus plus sensibles aux carences nutritionnelles, aux problèmes dentaires et aux maladies chroniques. Si la révolution agricole a permis le développement de sociétés humaines complexes et la croissance de la civilisation, elle a également eu un impact important sur la santé humaine. Il semble que le passage d'un mode de vie de chasseur-cueilleur à un mode de vie agricole ait entraîné une augmentation des maladies chroniques et des problèmes de santé, rappelant les intoxications lentes et pas seulement les effets du vieillissement. Excellent article sur le cyanure dans les plantes. N'étirez pas le muscle du « non ». Nous ne sommes pas faits pour résister à la tentation tout le temps. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas mettre à portée de main les aliments que vous ne voulez pas manger. Il vaut mieux aussi ne pas voir les cigarettes si vous voulez arrêter. En ce qui concerne la question de savoir s'il faut exposer les enfants à des aliments malsains à la maison, sans équivoque non. Pour les enfants, résister à la tentation est généralement plus difficile que pour les adultes, ce qui rend particulièrement utile de minimiser l'exposition à des options malsaines à la maison. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les enfants auront plus de mal à dire non aux tentations. Contrôle des impulsions non développées. Le cerveau des enfants, en particulier le cortex préfrontal responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions, n'est pas complètement développé. En conséquence, ils ont souvent du mal à s'autoréguler et sont plus susceptibles de céder à des désirs immédiats au lieu d'envisager des conséquences à long terme. Avec une compréhension limitée des conséquences, les jeunes enfants peuvent ne pas comprendre les conséquences négatives potentielles de choix malsains, telles que comme l'impact sur leur santé à long terme ou le risque de développer des maladies chroniques. Ce manque de compréhension leur permet difficilement de résister aux tentations. Forte influence des stimuli extérieurs, les enfants sont très sensibles aux stimuli de leur environnement, notamment les repères visuels, les odeurs et les goûts. Lorsqu'ils sont confrontés à des options tentantes et malsaines, ils peuvent avoir du mal à résister en raison de leur réactivité accrue à ces stimuli. Pression des pères. Les enfants peuvent être fortement influencés par leurs pères et peuvent se sentir obligés de se livrer à des choix malsains si leurs amis le font. Cette influence sociale peut rendre plus difficile pour eux de dire non aux tentations. Connexion émotionnelle à la nourriture. Les enfants peuvent associer certains aliments au confort, à l'amour ou à la récompense, ce qui rend difficile pour eux de refuser ces aliments lorsqu'ils sont disponibles à la maison. Réduisant la présence d'options alimentaires malsaines à la maison, les parents peuvent aider leurs enfants à éviter ces tentations et à rendre plus accessibles des choix plus sains. Cette approche aide non seulement les enfants à développer de meilleures habitudes alimentaires, mais les met également en place pour réussir à long terme à maintenir une alimentation équilibrée et nutritive. Les humains sont par nature vulnérables à la tentation, et s'y tenir tout le temps peut être difficile. Des recherches et des exemples tirés de la vie quotidienne indiquent qu'une stratégie efficace pour éviter les habitudes malsaines ou les comportements addictifs consiste à éliminer ou à minimiser l'exposition à la source de tentation. Par exemple, en ce qui concerne la nourriture, des études ont montré que les gens sont plus susceptibles de consommer des aliments malsains collation lorsqu'elles sont facilement accessibles, Wansink, Penter et Lee, 2006. En gardant ces articles hors de vue ou en ne les achetant pas du tout, les gens peuvent réduire le risque d'en devenir dépendants. Au lieu de cela, placer des aliments plus sains, tels que des fruits et des légumes, à portée de main peut encourager de meilleures habitudes alimentaires. De même, pour ceux qui essaient d'arrêter de fumer, la recherche suggère qu'il peut être utile d'éviter les repères visuels ou les rappels. Une étude de Tiffany et Drobs, 1991, a révélé que les personnes exposées à des signaux liés au tabagisme éprouvaient des envies plus fortes de cigarettes. Ainsi, garder les cigarettes hors de vue et éviter les environnements où le tabagisme est courant peut aider les gens dans leurs efforts pour arrêter. Comprendre notre susceptibilité innée à la tentation peut nous aider à concevoir des stratégies pour y résister plus efficacement. En réduisant l'exposition à des stimuli malsains ou addictifs, nous pouvons nous faciliter le maintien d'habitudes et de comportements plus sains. Une autre explication de l'empoisonnement et pas seulement du vieillissement est que les populations qui passent de la vie dans la nature à la vie moderne sont les plus vulnérables à l'alimentation moderne. Car ils n'y ont pas été exposés comme nous le sommes depuis plusieurs milliers d'années et ne se sont donc pas adaptés génétiquement appropriés. Par exemple, les autochtones sont beaucoup plus vulnérables au diabète, à l'hypertension artérielle, aux problèmes cardiaques et plus encore. Cela montre que le régime alimentaire moderne n'est fondamentalement bon pour personne, mais pour ceux qui n'y ont pas été exposés depuis des milliers d'années, il est encore plus nocif. Les Amérindiens sont plus sensibles à l'alcool car ils n'avaient pas le choix. L'introduction évolutive, mais l'homme blanc souffrait aussi d'une telle addiction et nuisait à sa capacité à avoir des enfants. Substitut dans un esprit non scientifique, même si ce n'est pas tellement moi, la nature n'aime pas être alimentée, et il existe de beaux mécanismes contre l'alimentation de la nature, dont l'un se produit aujourd'hui alors que le monde se réchauffe parce que l'environnement naturel de la Terre est en train d'être détruit. Nous ne sommes pas censés consommer des produits à base de gluten non fermenté, du sucre propre, de la caféine et de la viande transformée ou cultivée dans des conditions non naturelles, et ce qui est beau, c'est que les substituts sont souvent beaucoup plus toxiques pour nous que l'original. Les aliments courants tels que le lait, le sucre, le gluten et la viande ne sont pas recommandés car ce sont souvent des concentrés et ils ne sont pas aussi sains qu'ils sont commercialisés. Ils ont souvent des effets négatifs sur notre santé. La plupart des concentrés connus aujourd'hui ne sont pas bons pour nous parce que dans les années de notre évolution, nous n'étions pas exposés à des concentrations. Si nous prenons le tahini comme exemple, une portion de 100 g de tahini contient environ 1 kg de sésame, il est bien clair que manger 1 kg de sésame n'a aucun sens, et le problème est que le sésame contient des toxines naturelles qui sont censées prévenir les parasites en le mangeant, le concentré de sésame contient une concentration de toxines. Le pire de tout, c'est un substitut du lait à base d'avoine, en particulier l'avoine toxique. Les substituts du lait tels que le lait d'amande, de soja ou de riz sont en fait une concentration de ces produits, qui contiennent des toxines naturelles et, dans leur concentration, nous consommons en fait une concentration de ces produits. Toxines. De plus, les substituts manquent de nutriments essentiels présents dans le lait de vache ou de chèvre, tels que le calcium, la vitamine D et les protéines. Des études montrent que le lait à base de plantes peut ne pas offrir les mêmes avantages pour la santé que le lait de vache et que les substituts contiennent des toxines présentes dans le soja et les amandes. Les substituts de sucre comme les édulcorants artificiels peuvent aider à réduire les calories, mais certaines études ont montré qu'ils peuvent entraîner une prise de poids, le diabète et d'autres problèmes de santé. Les substituts de sucre naturels comme le miel ou le sirop d'agave contiennent encore des calories et peuvent contribuer à la prise de poids s'ils sont consommés en excès. La bonne façon est tout simplement de ne pas consommer de produits contenant du sucre ajouté, on s'y habitue rapidement. Les substituts du sucre ne fonctionnent que sur vous, ils ne sont probablement pas vraiment meilleurs que le sucre. Le seul substitut au sucre pur est le sucre pur zéro. Les produits sans gluten sont importants pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque. Les personnes sensibles au gluten, c'est-à-dire tout le monde, il est préférable de rester à l'écart des substituts de gluten industriels. Le gluten est présent dans les types de blé, et la bonne façon est d'éviter complètement le blé et de ne pas essayer de le remplacer. Les aliments sans gluten peuvent être riches en calories, en sucre et en graisses malsaines. Les substituts de viande tels que les produits à base de soja, le seitan ou les hamburgers à base de plantes sont essentiellement un concentré de soja, de pois ou d'une autre plante et contiennent généralement une concentration des toxines naturelles du soja, des pois ou d'autres plantes. Les humains ne sont pas adaptés pour manger de la plante à moins qu'il ne s'agisse d'un fruit mûr ou qu'il n'ait subi un processus pour éliminer les toxines comme l'acidification ou un chauffage prolongé. Dites, pas maigre, nous sommes nés avec la capacité d'être bons dans presque tous les domaines, cela inclut également le domaine des mathématiques. Pour exceller en maths, il suffit de passer des heures à s'entraîner, alors que pour avoir un poids santé, il est simple de manger ce qui nous convient en tant qu'humain, peu importe les quantités. Certaines personnes ont des problèmes génétiques qui les empêchent d'apprendre les mathématiques ou des maladies métaboliques chroniques qui les amènent à avoir un poids anormal. Avoir un poids normal signifie essentiellement ne pas souffrir d'une maladie métabolique. Le corps a un mécanisme complexe qui sait comment nous amener à un poids approprié. Tout comme les centaines de mécanismes qui soutiennent les niveaux de sucre, de vitamine C et de sodium, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Le corps veut être équilibré et c'est aussi vrai pour le poids. L'un des signes d'une maladie métabolique est la faim peu de temps après les repas et un poids très différent de celui que nous avions à 18 ans. Pas grossir, mais toute personne qui mange des aliments adaptés aux humains aura un poids normal. La génétique nous aide en fait à ne pas avoir de maladie métabolique. Le mécanisme de stabilisation du poids ne fonctionne plus bien, malgré l'empoisonnement du corps avec des aliments qui ne nous conviennent pas. Mais la génétique fonctionne aussi jusqu'à un certain âge. C'est beau quand à un certain âge les gens n'ont plus le poids qu'ils avaient avant. De la science et de la logique, il semble que ce qui est important, c'est ce que nous mangeons pour ne pas gâcher notre mécanisme de stabilisation du poids et non les quantités. Après tout, disons qu'un oiseau qui rencontre 100 tonnes de cerises, ne gonfle pas et ne pourra pas voler. Les gènes de ces oiseaux le protègent. Un oiseau sans ce mécanisme de défense n'est plus à l'état sauvage, mais si on lui donne une substance qui brouille son système de stabilisation du poids, comme le maïs transgénique, il est possible et raisonnable que vous atteigniez un poids où vous ne pouvez pas voler et fuir les fous. Rien de tel qu'une expérience pour le prouver. Faites une expérience sur votre chien, donnez-lui autant de viande bouillie ou cuite qu'il peut en manger. Voyez s'il prend du poids. Donnez-lui de la nourriture pour chien qu'il peut manger et voyez ce qui le fait grossir. Signalisation de base, signalant la soif et la faim, tout comme vous faites confiance à votre corps pour signaler quand vous avez froid ou chaud, et vous ne vérifiez pas exactement quelle est la température, c'est exactement comme ça que le corps sait nous signaler s'il a faim ou soif, et il devrait l'écouter parfois. En cas de maladie, le corps signale une réticence à manger et cela est parfaitement logique. Pendant la maladie, le corps préfère diriger son énergie vers le combat et non vers la digestion. L'un des problèmes est une maladie métabolique dans laquelle le corps perd en fait la capacité de nous signaler que nous sommes rassasiés. La seule façon de guérir de cette maladie est de manger des aliments adaptés à l'homme. Des années d'alimentation non adaptée à l'homme provoquent des maladies métaboliques, tout le monde l'attrape à un âge différent. Le même principe s'applique à la consommation d'alcool tant que vous ne confondez pas votre corps avec de la caféine, de l'alcool ou d'autres diurétiques. L'essentiel qui vient de la logique et de la science est: buvez de l'eau quand vous avez soif et mangez quand vous avez faim. Dans un régime libre, vous mangez moins de glucides et plus de viande et de poisson. Il est donc important que vous n'ayez pas peur de manger beaucoup plus de viande et de poisson que d'habitude. Mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasié. Attendez les signaux indiquant que vous n'avez plus faim. Pourquoi le corps ne nous signale-t-il pas que nous sommes empoisonnés? Le corps nous signale et sa manière est la capacité de différencier l'amer, le sucré, l'épicé, l'acide, ainsi que comme en utilisant le sens de l'odorat, les aliments malodorants sont très probablement gâtés et nous ne les mangerons pas. C'est un instinct primitif qui s'est développé au cours de millions d'années d'évolution. Vous devez vous demander, alors, quel goût a le piquant pour moi? Ou quel goût a le wasabi amer pour moi? Et bien sûr, quel goût a une cigarette? Point d'interrogation guillemets double. À court terme, ça ne m'a pas tué, alors apportez-en plus. Il existe de nombreux systèmes dans le corps qui manquent également de substances que le corps sait diriger d'abord là où elles sont nécessaires à court terme, généralement cerveau et énergie, et seulement à long terme, la force des os et plus, vous le voyez dans l'ostéoporose. Dans cet article, le professeur Broussam explique la théorie du routage des minéraux et des vitamines. Avec une cigarette, un autre mécanisme de biais venant d'une substance chimique fonctionne, La nicotine donne un bon signal au cerveau puis on l'associe à la cigarette et on obtient « je comme ça ». La cigarette veut nous tuer mais le cerveau l'associe à quelque chose de bien à cause de la nicotine. Le corps pense à court terme. Le corps a un mécanisme naturel qui nous donne envie de continuer à manger des aliments que nous avons mangés et que nous n'avons pas mangés tuez-nous. Donnez suffisamment d'épices à l'enfant et il commencera à aimer les épices. Le test est dans le goût initial et cela se voit chez les enfants, ils veulent du gras et du sucré. L'empoisonnement par les toxines végétales peut se manifester de différentes manières et à tout moment, ce qui en fait un problème fréquent et inquiétant. Les humains sont exposés à une grande variété de toxines provenant des plantes, puisque chaque plante peut contenir des centaines, voire des milliers de toxines différentes. La recherche a montré qu'une exposition répétée à certaines saveurs peut modifier les préférences gustatives d'une personne au fil du temps. Par exemple, une étude publiée dans la revue Appetite a révélé que les enfants exposés à plusieurs reprises à des légumes qu'ils n'aimaient pas au départ étaient plus susceptibles de développer une préférence pour ces légumes au fil du temps. En conclusion, les toxines végétales peuvent poser un risque important pour la santé et les enfants peuvent manifester une préférence naturelle pour les aliments sucrés et gras. Cependant, une exposition répétée à certaines saveurs peut modifier les préférences gustatives, et il est important d'être conscient des conséquences potentielles à long terme sur la santé d'une exposition prolongée à certaines substances. La droiture est malade. Ils reconnaissent immédiatement que bien fait est beau et que la graisse n'est pas belle. Les dents blanches sont belles et les dents jaunes et brunes ne sont pas belles. Pourquoi sommes-nous nés avec de telles capacités? Nous recevons un signal sur la beauté du cerveau parce qu'une telle beauté montre la fertilité, quelque chose qui a donné une option pour transférer nos gènes. Le corps sait-il comment signaler un manque de minéraux? Comme des animaux léchant des réserves minérales quand ils ressentent un manque, le désir de sel est-il quelque chose de similaire chez nous? Avons-nous soif de minéraux comme soif d'eau? Désir de viande? Il y a un signal à propos des aliments frais et chauds qui ont le meilleur goût pour nous. Et pour de bonnes raisons, ils sont plus faciles à digérer, plus nutritifs et contiennent moins de mauvaises bactéries. À mon avis, et c'est un peu un pari, le corps s'est signalé un manque de minéraux en voulant manger principalement de la viande. Personnellement, je le ressens parfois. Je ne mange pas beaucoup de types d'aliments en même temps, par exemple du pain de teff mariné avec du poisson, du bœuf avec de la moelle osseuse ou du yaourt de chèvre avec des plantains rôtis. Je crois qu'inonder le monde avec de nombreux types d'aliments brouille le signal de manger un certain type d'aliment qui contient des minéraux qui nous manquent, mais comme mentionné, c'est un pari que je fais parce que je vois les animaux qui lèchent les réserves de minéraux et notre amour pour sel, et il est également logique d'un point de vue évolutif que les animaux ressentent un manque et veuillent manger de la nourriture qui contient l'ingrédient qui leur manque. Comment le pain au levain et le yaourt de chèvre conviennent-ils aux humains et sont-ils toujours acides? Bonne question. Le pain ou tout autre grain qui a été levé nous convient même s'il est acide et l'explication logique est que c'est nouveau dans notre évolution, c'est probablement une des exceptions, et effectivement dans le levain il y a beaucoup de bactéries lactobacilles que nous reconnaître comme prévu comme aigres. Il en va de même pour le yaourt aigre pour nous, mais il nous convient beaucoup mieux que le lait, à cause des bactéries lactobacilles. Le pain au levain ne sera bon pour nous qu'après la cuisson, tandis que le yaourt ne nécessite pas de chauffage. Alors que le levain et le yaourt impliquent des bactéries lactiques dans leur processus de fermentation, les bactéries spécifiques impliquées sont généralement différentes. Le yaourt est fabriqué principalement en fermentant le lait sous l'action de bactéries lactiques, en particulier Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. Ces deux espèces de bactéries travaillent ensemble pour convertir le lactose, le sucre du lait, en acide lactique, qui épaissit le lait et donne au yogourt le goût aigre caractéristique du yogourt et un produit avec des bactéries, mais cette fois, ils sont bons pour nous. En revanche, le levain repose sur un mélange de levures sauvages et de bactéries acides du lait, telles que celles des genres Lactobacillus et Leuconostoque, pour fermenter la pâte. Bien qu'il puisse y avoir un certain chevauchement dans les types de bactéries lactiques présentes dans le levain et le yogourt, les espèces bactériennes spécifiques et les processus de fermentation impliqués sont généralement différents, ce qui entraîne des goûts et des textures différents. L'expérience vaut mille études. Essayez-le par vous-même tout ce qui est écrit ici. Par exemple, buvez 2 verres de lait de vache contre 2 verres de lait de chèvre. Si vous avez une certaine sensibilité à l'un d'entre eux, vous le ressentirez immédiatement. Essayez de manger librement et voyez si cela fait une différence pour le mieux, vous ne perdrez rien de cette expérience. À long terme, c'est un profit fou, exactement ce que recherche une pensée libre, un investissement énergétique minimal et un profit énorme. Les expériences qui ne font pas beaucoup de mal sont formidables car elles sont à la fois fiables et une expérience dont on se souvient généralement. La science montre que la protéine de type caséine A1 dans le lait de vache augmente la sensibilité au lait et non au lactose. La protéine de caséine A2 a toujours été présente dans le lait de chèvre et de brebis. Quelque part dans l'histoire, une mutation a été créée uniquement chez les vaches européennes qui les a amenées à donner plus de protéines de type caséine A2 dans le lait. À mon avis, cette mutation affecte également la santé du bœuf. Il n'y a rien de tel qu'une expérience. J'ai acheté du lait normal aux États-Unis et aussi du lait qui n'est que de type A2 et ma fille et moi avons bu un verre de lait à des moments différents. Ma femme était en colère contre moi pour avoir fait des expériences sur notre fille, mais je l'ai calmée et lui ai dit que c'était pour le bien de l'humanité. Après avoir tous les deux bu le lait normal, ma fille et moi avions mal au ventre et elle avait aussi mal à la tête après avoir bu le lait A2, nous n'avions plus de symptômes. Bien sûr, elle ne savait pas quel type de lait elle buvait. La science, l'observation et la logique se sont rejointes. En Israël, il est impossible d'acheter uniquement du lait de type A2. Une autre expérience que vous devriez faire, manger 1 kg de bœuf, puis un jour plus tard, mangez 1 kg de poisson ou 1 kg d'agneau et vous verrez la différence de sensation. Côté droit du pari, il est important pour moi de présenter un principe important selon lequel j'opère, que nos lointains ancêtres mangeaient, et la logique ne montre pas qu'ils se soient trompés. C'est en fait être du bon côté du pari, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il nous convient de manger, mais quand on apporte un nouvel aliment qui contient une nouvelle substance et qu'on demande, est-ce qu'il nous guérit ou nous empoisonne ? Il y a 9999 à 10 000 chances qu'il empoisonne et 1 à 10 000 chances qu'il guérisse, car il y a des millions de choses qui se passent dans le corps, les processus chimiques, et la chance que vous ayez trouvé une nouvelle substance est une mince chance. Quel côté du pari choisissez-vous ? Donnez au corps humain le mérite de savoir comment se passer d'épinards, de choux frisés ou de superaliments. C'est exactement ainsi que fonctionnent l'évolution et la sélection naturelle, en trouvant le bon moyen de sortir de milliers d'autres façons, mais il est peu probable que tel ou tel superaliment améliore les millions de processus dans le corps, et il n'y a aucun moyen que vous soyez le la quantité quotidienne recommandée de minéraux et de vitamines RDA est fausse absolument, car elle est basée sur des personnes qui mangent des plantes contenant des toxines qui inhibent l'absorption du fer et de nombreux autres minéraux importants. La nutrition c'est, en fin de compte, nous apprécions la plupart des types d'aliments de la même manière, il ne faut que quelques jours pour s'habituer au nouveau régime. Il n'y a pas une personne qui n'a pas changé d'avis au moins une fois dans sa vie à propos d'un certain aliment, donc vous pouvez probablement comprendre ce que je veux dire. Les humains sont adaptatifs, ce qui signifie que ce que nous faisons au quotidien, à la fin, nous nous y habituons et l'aimons, donc la pensée « je ne peux pas changer ce que je mange maintenant » est incorrecte. Les humains ne sont pas adaptés pour manger la plupart des types d'aliments, même si la nourriture est naturelle et savoureuse. Un régime qui est bon pour certaines personnes affecte tout le monde différemment en raison des gènes et de l'environnement d'une personne, tout comme les traits de caractère sont affectés par l'environnement et les gènes. Dans la nature, les humains mélangent à peine les glucides avec les protéines et les graisses, c'est ce qui cause le problème du métabolisme dans la société moderne. Les humains qui vivaient dans la nature chassaient un éléphant, le mangeaient et après quelques heures quand ils avaient faim ils mangeaient des fruits. Le mélange de glucides avec des protéines et des graisses provoque le problème du sucre et de l'obésité. La viande se digère longtemps et pendant ce temps, le sucre est élevé à cause des glucides. Les Indiens et les aborigènes, y compris les personnes qui n'ont pas vu la modernisation tombent malades beaucoup plus rapidement que les occidentaux qui suivent un régime occidental. Cela montre que nous avons un peu évolué pour faire face au régime alimentaire occidental. Mais en même temps, cela montre avec certitude que le régime occidental nous « empoisonne », sinon il ne serait pas possible que ces deux groupes aient un effet différent. La plupart des formes de nutrition telles que cétogène, paléo, végétalien, végétarien, carnivore montre une amélioration de la santé car ils réduisent la consommation d'aliments transformés, mais il y a des ingrédients problématiques, les toxines végétales et en particulier dans les céréales complètes, le lait de vache et plus. Ignorez les chiffres 24 g de protéines, vous avez dû lire qu'il nous en faut 200 g de protéines, 59 g de glucides, 25 g de matière grasse par jour, ou quelque chose d'étrange comme ça, pour maintenir notre santé. Mais le corps humain est bien plus complexe que cela. Il sait stocker les minéraux et les vitamines et nous faire sentir quand il manque quelque chose. Quand vous entendez des diététiciens ou des médecins parler comme si le corps humain était une recette de gâteau, ignorez-le tout simplement. Au cours des millions d'années d'évolution, l'homme a survécu sans compter la quantité de viande, de fruits ou de pain qu'il a mangé. Habituellement, les conseils de ces personnes sont à l'opposé de ce que vous devriez vraiment manger. Ils diront souvent, besoin d'un glucide, à chaque repas. Bien sûr, l'inverse est vrai car le corps décompose beaucoup mieux les graisses et les protéines lorsqu'il n'y a pas de glucides dans la région. Cela est dû à l'acidité nécessaire pour que les enzymes fonctionnent de manière optimale dans l'estomac. Les glucides nécessitent une acidité relativement faible, et pour décomposer les graisses et les protéines relativement élevées. Le prix financier de manger librement un régime gratuit n'est pas plus cher qu'un régime normal régime alimentaire, au contraire, cela peut être moins cher. Un cagé de TEF coûte environ 20 nids. Lorsque vous faites le pain vous-même, cela coûte le même prix que d'acheter du pain au supermarché. Il y a une économie sur toutes les boissons sucrées de toutes sortes car vous ne buvez que de l'eau. Les fruits et le yaourt de chèvre coûtent le même prix dans une alimentation régulière et dans une alimentation libre, il est inutile d'acheter bio. Conclusion, une alimentation gratuite peut coûter un peu plus à court terme, mais cela vous fera économiser beaucoup d'argent sur les dépenses de santé et les soins pour votre corps, votre esprit et vos dents. Être malade coûte cher et c'est désagréable. Le test alimentaire, peut-on manger sans cuisiner, chauffer ou utiliser des produits chimiques? Si c'est le cas, et que la nourriture n'est pas amère, épicée ou aigre, alors c'est une bonne nourriture pour nous. Il vaut mieux faire cuire les aliments avant de les manger, mais ce n'est que pour voir si c'est bon pour l'homme. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas manger d'autres aliments, c'est juste une façon de savoir ce qui est bon pour nous. Par exemple, le blé ne peut pas être consommé sans être chauffé et broyé, il est donc moins adapté. Le poisson et la viande peuvent être consommés tels quels et donc adaptés à l'homme. La logique derrière le test découle du fait que l'homme n'a utilisé le feu et le chauffage des aliments de manière intensive que depuis quelques centaines de milliers d'années, contre quelques millions d'années d'évolution dans le monde. Les singes, nous sommes donc tout à fait adaptés pour manger des aliments crus, non chauffés ou boisseaux. De tels aliments, qui sont chauffés ou un boisseau doivent être vérifiés, ne mangez pas de toxines au lieu de la légende de « désintoxication ». Nos corps sont équipés de mécanismes naturels de désintoxication qui fonctionnent efficacement sans avoir besoin d'ateliers spéciaux. En fait, le corps élimine constamment les toxines, pas seulement lors d'événements ou d'endroits spécifiques comme les week-ends à Mitzperamon. Il est important de comprendre que nous sommes censés consommer des aliments solides qui nécessitent une mastication. L'idée principale n'est pas d'empoisonner notre corps dès le début, et nous y parvenons en adhérant à un régime libre. La mastication active la libération de diverses enzymes dans notre système digestif, favorisant une digestion et une absorption efficaces des nutriments. D'autre part, la consommation d'aliments mélangés ou moulus peut entraîner une absorption rapide et provoquer une augmentation du taux de sucre dans le sang, ce qui n'est pas idéal pour notre corps. En conséquence, de nombreux checks nutritionnels peuvent ne pas être nécessaires ou bénéfiques pour nous. En outre, notre corps n'est pas naturellement adapté pour traiter un mélange de fruits, de noix et de légumes à la fois. Ce régime alimentaire n'était pas courant dans l'histoire de l'humanité, mais ne s'est développé que ces dernières années. De ce fait, il est essentiel d'aborder notre nutrition sous l'angle de l'évolution, de la science, de la raison et en somme de la libre pensée. Il y a des aliments qui conviennent à l'homme et des aliments qui ne conviennent pas. La définition « aliments sains » ou « super nourriture » ne sont pas des définitions logiques. La façon dont les humains mangent quand il n'y a que de l'herbe autour d'eux, la magie des chèvres et des moutons, ils mangent de l'herbe et ensuite nous pouvons manger leurs produits laitiers ou œufs. C'est pourquoi les humains ont toujours été proches des chèvres et des moutons dans les temps anciens, parce que vraiment trouver de l'herbe est beaucoup plus difficile que de trouver des fruits, et ils mangeaient à peine des légumes. Oui, tout le monde se trompe sur la vache à lait. Manger du lait de chèvre fermenté est connu depuis des milliers d'années. Il existe des sites archéologiques qui montrent la production de fromage il y a 9000 ans. La différence entre le lait de vache et le lait de chèvre en termes de capacité à les digérer réside dans une protéine appelée caséine. Les protéines alpha-S1 caséine et alpha-S2 caséine sont des sous-types de caséine présents dans le lait de divers mammifères, notamment les chèvres, les moutons et les vaches. La composition et le rapport de ces sous-types de caséine peuvent varier entre les espèces, les races et même les animaux individuels. La caséine bêta-1 est présente dans le lait de certaines races de vaches, comme les vaches Holstein, et on la trouve également dans le lait de brebis plutôt que dans le lait de vache. Lorsqu'elle est digérée, la bêta-caséine A1 peut libérer un peptide bioactif appelé bêta-casomorphine-7, BCM7, qui a été lié à l'inconfort gastro-intestinal, à l'inflammation et au ralentissement de la vidange gastrique. Et voici le point intéressant. La bêta-caséine A1 et A2 sont deux versions de la protéine de lait bêta-caséine. On estime que la mutation génétique qui a abouti à la version A1 s'est produite il y a 5000 à 10 000 ans, la mutation génétique qui a conduit à la version bêta-caséine A1 impliquait une seule substitution d'acide aminé dans la chaîne protéique. Ce changement apparemment minime a changé la façon dont la protéine se décompose pendant la digestion. À mon avis, cette mutation touche aussi le bœuf. Et il s'est produit dans les races européennes de bovins, en particulier Bosox. La protéine bêta-caséine originale chez les bovins était du type A2, que l'on peut encore trouver dans certaines races bovines traditionnelles, telles que les bovins Bos indicus africains et asiatiques. Comme dans certaines races Bos taurus telles que les vaches Guernesey et Jersey chèvres, le lait de chèvre contient généralement une proportion plus faible des alpha-S1 caséine par rapport au lait de vache et au lait de brebis. Certaines races de chèvres produisent même du lait avec peu ou pas de caséine alpha-S1. La teneur en caséine alpha-S2 du lait de chèvre est généralement supérieure à la caséine alpha-S1, ce qui confère au lait de chèvre ses propriétés caractéristiques et, pour certaines personnes, le rend plus facile à digérer. Ovin, la teneur en caséine alpha-S1 du lait de brebis est généralement supérieure à celle du lait de chèvre, mais elle varie selon les races. La teneur en caséine alpha-S2 existe également, mais le rapport exact entre la caséine alpha-S1 et la caséine alpha-S2 peut varier selon la race et le type de mouton-vache. Le lait de vache contient généralement une proportion plus élevée de caséine alpha-S1 que le lait de chèvre. La teneur en alpha-S1 caséine varie d'une race à l'autre. Les vaches Holstein, par exemple, ont généralement une teneur en caséine alpha-S1 plus élevée que les vaches Jersey. La teneur en caséine alpha-S2 est également présente dans le lait de vache, mais le rapport entre la caséine alpha-S1 et la caséine alpha-S2 dépend de la race et de la génétique de la vache. La logique montre que les chèvres sont préférables car il est plus facile d'élever des chèvres dans les zones montagneuses et aussi l'histoire de l'homme était accompagnée de chèvres. Proverbe 27. Et quand la science et la logique s'accordent, alors les chances pour la vérité des choses sont élevées. Le restaurant d'un chef, c'est la méthode de préparation dans l'alimentation, ce qui compte ce sont les ingrédients. Bien que le mode de préparation ne soit pas toujours significatif, certains procédés, comme l'acidification et la fermentation des grains, sont indispensables à l'élimination des toxines. Il est important d'observer les combinaisons d'aliments d'une même famille, car la digestion peut changer en fonction de la présence de glucides, de protéines et de lipides. Par exemple, type de viande ensemble, ou poisson, ont du sens. Les restaurants gastronomiques privilégient souvent le goût et le fer sans tenir compte des conséquences nutritionnelles de leurs plats, en utilisant des ingrédients et des techniques de préparation différents qui peuvent ne pas être optimaux pour notre santé. Par conséquent, il est recommandé de faire preuve de prudence lorsque vous mangez dans de tels restaurants, où le goût peut l'emporter sur la valeur nutritionnelle. Par exemple, lorsqu'il s'agit de viande, la qualité et l'origine de la viande, comme l'agneau nourri à l'herbe, sont plus importantes que la façon dont la matière première est préparée par le chef. Personnellement, je n'aime pas du tout les petits plats non identifiables, au contraire, j'aime les grands plats dont je sais exactement ce qu'ils contiennent. Il y a une sorte d'ordre général, vous empoisonnez votre chien, les animaux domestiques n'ont jamais été exposés au maïs, au soja, au blé, à l'avoine jusqu'à ce que les entreprises alimentaires mettent ces produits dans leur nourriture sèche. La consommation de céréales contenant des toxines entraîne des effets négatifs sur la santé des chiens et des chats pour les raisons suivantes. Plus absorption réduite des nutriments. Les antinutriments tels que les phytates peuvent se lier aux minéraux tels que le calcium, le fer et le zinc, réduisant leur biodisponibilité et rendant difficile pour les animaux de compagnie pour absorber les nutriments essentiels ceux-ci. Au fil du temps, cela peut entraîner des carences en nutriments. Plus troubles du système digestif. Certaines substances antinutritionnelles, telles que les lectines, peuvent irriter la muqueuse du système digestif, provoquant des symptômes tels que vomissements, diarrhée ou douleurs abdominales. Cela est particulièrement vrai si les grains sont consommés crus ou mal cuits. Plus allergies et sensibilité. Certains animaux de compagnie peuvent souffrir d'allergies ou de sensibilité à des grains spécifiques, ce qui peut provoquer une inflammation et une détresse du système digestif. Les céréales telles que le blé et le maïs sont des allergènes courants pour les chiens et les chats. Plus réponse inflammatoire, certains antinutriments peuvent contribuer à l'inflammation dans le corps, ce qui peut aggraver les problèmes de santé existants ou entraîner le développement de nouveaux. Les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie sont conscients des risques potentiels associés aux toxines dans les antinutriments, mais ils sont beaucoup moins chers que le saumon ou le poulet. Et oui, les vétérinaires ont tort. Les grains suivants ne sont trempés que pendant 48 heures et fermentés pendant 48 heures. heure puis cuit, mil, sorgho, achille et millefeuille, amarante, fognori sauvage et un peu de riz blanc, principalement pour les Asiatiques. Je ne crois pas que nous ayons suffisamment évolué pour nous habituer à les manger. Tous les autres grains, évitez-les complètement. Comme les anciens chantaient et manquaient, vous devez éliminer leurs toxines problématiques des grains. Les grains sont comme des graines et ils ne veulent pas être mangés. Vous devez donc effectuer une action pour laquelle ils n'étaient pas prêts dans la nature. Les animaux ne savent pas tremper, mariner et chauffer. En trempant les graines pensent qu'elles vont germer et donc un mécanisme de détoxification est activé. Lors de la fermentation, les bactéries telles que les lactobacilles décomposent les toxines, ainsi que la cuisson, qui détruit une partie des toxines. La libre pensée nous aide à comprendre que nos ancêtres ne faisaient pas lever le pain pour le goût, mais pour éviter les problèmes de santé. Et de conserver le pain plus longtemps. Aujourd'hui, dans la plupart des endroits où il y a du blé, il est génétiquement différent et n'est pas fermenté, d'où les problèmes. La graisse animale, oui le beurre de bœuf X, peut être problématique à cause du NOI 5GC. Le beurre de chèvre VX peut être problématique à cause du NOI 5GC et aussi car il s'agit en fait d'un concentré du lait huile de poisson VVV, aide à l'exposition à utiliser en raison des oméga 3. Huile d'oie et de canard V, ils n'ont presque pas de NOI 5GC et donc sans danger. Graisse de vache VX, peut être problématique à cause du NOI 5GC. Ce n'est pas seulement que les humains aiment le goût de la graisse. Il n'augmente pas la glycémie et est le plus efficace sur le plan énergétique. Les tribus du pôle vivant uniquement à base de poissons et d'animaux ne souffrent pas d'hypertension artérielle ni de problèmes cardiaques, c'est la preuve concluante que la graisse animale n'est pas le problème de la société occidentale. Cela peut être problématique pour certains animaux, huile et graisse végétale, pour l'huile de n'importe quelle plante XXX, huile d'olive X, l'huile de canola et d'autres graisses végétales sont en fait des formes concentrées de toxines présentes dans les plantes. Ces huiles n'ont été introduites dans notre alimentation qu'au cours des dernières décennies et, historiquement, les humains n'ont pas consommé ces substances en grande quantité. Des études montrent que ces toxines peuvent nuire à la santé humaine. De plus, chauffer une huile végétale peut encore augmenter sa toxicité, il est donc surprenant que de nombreuses personnes considèrent l'huile d'olive comme un aliment sain. En réalité, il n'existe pas d'aliment sain ou de « super-aliment ». Au contraire, certains aliments peuvent être plus adaptés à certaines personnes ou circonstances qu'à d'autres. En ce qui concerne l'huile d'olive, il est important de noter qu'elle est fabriquée à partir d'olives vertes et amères qui peuvent contenir une quantité importante de toxines. À ce titre, il est conseillé d'utiliser l'huile d'olive avec modération, mais dans tous les cas mieux vaut choisir des huiles animales qui conviennent à l'homme. Les maladies vasculaires, y compris les maladies cardiaques, sont accélérées par le sucre et les huiles végétales et non par les graisses et huiles animales. L'une des causes en sont les petites qui sont des protéines présentes principalement dans les plantes et les céréales censées les empêcher d'être mangées par les animaux. Un article sur les lectines et les dommages aux vaisseaux sanguins. Wesson, Paul. Huile d'olive, histoire, production et caractéristiques des huiles classiques du monde. Une étude sur l'utilisation des huiles. Tout au long de l'histoire, l'huile d'olive a eu de nombreuses utilisations documentées. Toutes les cultures utilisaient l'olive principalement comme combustible pour les lampes, et c'était sa plus grande valeur. De nombreuses cérémonies impliquaient l'utilisation de l'huile d'olive, y compris l'onction de la royauté, des guerriers et du grand public aux religieux. Le terme Messie signifie « loin ». Les huiles d'olive parfumées étaient utilisées pour offrir des offrandes aux dieux, comme pommade pour guérir les maladies et pour rendre la peau et les cheveux plus sains. Les Grecs versaient rituellement de l'huile d'olive sur la peau de l'athlète, puis la grattait avec la sueur et la poussière après le concours. Il servait également à fabriquer du savon et à sanctifier les morts. Il existe très peu de documentation sur l'utilisation de l'huile d'olive pour la consommation humaine. Poissons, tels que les poissons de mer V, sardines dans l'eau sans conservateur V, thon dans l'eau sans conservateur V, fruits de mer V, poissons d'étang X, les types de poissons qui existent aujourd'hui sont plus proches des types de poissons que l'on consommait autrefois, plus que des types de viande qui existent aujourd'hui à notre disposition. Les poissons de mer ou pêchés à l'état sauvage et non en étang sont les plus recommandés. Il est recommandé de consommer des poissons de mer, de préférence ceux qui ont un pourcentage élevé de matière grasse et éviter les poissons de bassin. Les poissons de bassin sont généralement nourris avec des céréales, du soja et d'autres substances qui ne sont pas naturelles, ce qui les rend en nutritifs. Des études ont montré que le poisson sauvage est le meilleur choix, car il contient de nombreuses substances bénéfiques, notamment des niveaux élevés d'acide gras oméga-3 et d'iode. Les humains sont bien adaptés à la consommation de poissons, et peuvent même être consommés crus sans effet secondaire, ce qui indique qu'ils sont propres à la consommation humaine. De plus, les allergies aux poissons sont relativement rares et une allergie à un certain aliment indique souvent sa toxicité. Aussi, il est recommandé de manger les céréales et le poisson séparément, au lieu de les combiner dans le même repas. En effet, ils ont des exigences digestives différentes et peuvent ne pas être absorbés de manière optimale lorsqu'ils sont consommés ensemble. En résumé, la consommation de poissons de mer est recommandée en raison de sa richesse nutritionnelle, et les poissons pêchés dans la nature sont préférés aux poissons élevés en étang. Les allergies aux poissons sont rares et le poisson peut être consommé cru ou cuit. Manger des céréales et du poisson séparément est également recommandé pour une digestion et une absorption optimale des nutriments. Viande, oui. Il est bon pour nous de manger des herbivores et non des mangeurs mixtes qui ont grandi dans les pâturages. Poulet, canard, oie, chèvre, buffle, wapiti cerf. Le corps humain est conçu pour un régime à base de viande pour décomposer les graisses, vous pouvez le voir dans les 5 organes différents qui doivent travailler simultanément pour décomposer les graisses. Même les vaches qui mangent de l'herbe, le produit final qui est absorbé dans leur sang est des acides gras formés à partir de fibres par des bactéries dans leurs intestins. Ils mâchent l'herbe et ajoutent de la salive pour obtenir une nouvelle surface pour que leurs bactéries intestinales décomposent les fibres en acides gras. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que manger des matières grasses facilite la digestion. Pour minimiser la consommation de volailles ou d'animaux qui mangent des céréales comme le soja, l'orge et le maïs, la règle de base est que s'il n'est pas dit sur l'emballage qu'ils ne mangeaient que de l'herbe, alors la vache ou le poulet ont reçu de la nourriture qui ne leur convient pas. En Israël, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais aux États-Unis, il est très courant de l'écrire. Ce n'est qu'alors que vous achetez qu'ils ne sont pas construits pour manger ces céréales, et certaines des toxines de ces céréales nous sont transmises par leur viande. Les organes internes et la graisse des animaux sont les parties les plus nutritives. Il est important de ne pas mélanger les céréales et les glucides avec la viande et de les manger séparément les uns des autres, à plusieurs heures d'intervalle. On peut en conclure que nous sommes adaptés pour manger des chèvres car pendant des milliers d'années nous avons grandi avec elles, ce n'est pas seulement que votre livre dit « Ne faites pas cuire une chèvre dans le lait de sa mère », il fait référence à ne pas mélanger les types d'aliments ensemble. C'est ainsi que nous vivons depuis des millions d'années et ce n'est qu'à l'époque moderne que nous mélangeons tout de tout. Une description des sociétés humaines qui mangeaient principalement de la viande. Il y a une différence entre la viande qu'ils mangeaient autrefois et la viande d'animaux domestiques. Contrairement aux poissons de mer qui sont identiques à ce qu'ils mangeaient autrefois. Et malgré les différences, c'est encore assez proche, vous ne pouvez pas manger exactement comme les chasseurs mangeaient. Les populations paléolithiques consommaient principalement des protéines animales, de la viande de gibier, généralement d'animaux végétariens tels que des bovins qui vivaient en troupeau, notamment des cerfs, des bisons, des chevaux et des mammouths. Le profil nutritionnel de cette viande est sensiblement différent de la viande disponible dans les supermarchés modernes. La viande moderne contient beaucoup plus de graisse sous forme de tissu adipeux sous-cutané, de surface de tissu conjonctif et de fibres dans le muscle lui-même. Les animaux domestiques ont toujours été plus gros que leurs homologues sauvages en raison d'un approvisionnement alimentaire constant et d'une activité physique réduite. Les méthodes d'alimentation et d'élevage récentes ont encore augmenté la teneur en matière grasse pour répondre aux préférences des consommateurs, douces et juteuses. En conséquence, le pourcentage de graisse dans les animaux abattus d'aujourd'hui peut atteindre 25 à 30% ou plus. En revanche, une étude portant sur 15 espèces animales africaines végétariennes a révélé que leur pourcentage moyen de graisse était de 4%. Non seulement il y a plus de graisse chez les animaux domestiques, mais en plus sa composition est tout à fait distincte. La principale raison de cette différence est le mélange donné aux animaux domestiques, mais aux États-Unis et dans d'autres pays développés, vous pouvez obtenir de la viande d'animaux qui ne mangeaient que de l'herbe et non un mélange. Les graisses d'animaux sauvages contiennent 5 fois plus d'acides gras polyinsaturés que les graisses d'animaux domestiques. De plus, les graisses animales contiennent une quantité importante, environ 4%, d'acide écosapentaénoïque, EPA, un acide gras polyinsaturé oméga-3 à longue chaîne connu pour ses effets protecteurs contre l'athérosclérose et les maladies malignes. Le bœuf domestiqué ne contient que des traces d'EPA. La viande d'animaux sauvages contient moins de calories et plus de protéines par unité de poids que la viande d'animaux domestiques, bien que la composition en acides aminés de leur tissu musculaire soit similaire. Étant donné que la teneur en cholestérol des graisses est similaire à celle des tissus musculaires, la teneur en cholestérol de la viande d'animaux sauvages ne devrait pas être significativement différente de celle de la viande de supermarché. Dans la viande bovine, donc, elle ne convient pas à l'homme. La vache industrielle d'aujourd'hui a été recherchée relativement récemment pour l'homme par rapport aux chèvres qui ont été domestiquées il y a 10 000 ans. Les vaches ont été améliorées et constituent une industrie à part entière par rapport à l'industrie caprine. Il semble donc préférable de miser sur les chèvres et non sur les vaches. Tous les aliments des grandes industries, le poulet, les œufs, le soja, le blé, le riz et le lait ne sont pas bons pour nous, donc probablement le bœuf aussi. Les Indiens ont raison de considérer les vaches comme sacrées. Noy-5-GC acide N-glycolylneuraminique est un type d'acide sialique, une molécule de sucre présente à la surface des cellules de nombreux mammifères, notamment les vaches, les moutons et les chèvres. Cependant, les humains ne synthétisent pas naturellement Noy-5-GC en raison d'une mutation génétique du gène CMAH au cours de l'évolution. Au lieu de cela, les humains produisent un acide sialique similaire appelé acide N-acétylneuraminique Noy-5-ACK. Noy-5-GC, présent dans la plupart des types de viande. C'est une substance problématique lorsque nos intestins sont blessés, dans une grande partie de la population, et peut-être même lorsqu'ils ne sont pas blessés. On le trouve principalement dans la graisse et les organes internes des bovins. Dans la viande bovine, il est présent en forte concentration chez les moutons et les chèvres. Il est également présent, bien qu'en plus petite quantité. Bien que la science ne soit pas concluante à ce sujet, je suis d'avis qu'il est préférable d'éviter la viande rouge, bœuf, si possible. Une étude qui a examiné l'effet de Noy-5-GC chez les animaux, les humains ont été exposés au Noy-5-GC pendant des centaines de milliers d'années. Une étude sur la tribu Maasai, par exemple, qui vit de la viande, du lait et du sang des bovins et des chèvres, et aucun cancer n'y a été trouvé. Entre les deux tribus Maasai, il a été constaté qu'il y avait plus de problèmes d'érosion du cartilage que la tribu correspondante qui ne mangeait pas de viande. Cela pourrait être un indice que la viande rouge peut causer des problèmes articulaires. Chez les mammifères qui produisent Noy-5-GC, il joue un rôle dans divers processus cellulaires, notamment la signalisation, l'adhésion et la reconnaissance cellulaire. Les acides sialiques, tels que Noy-5-GC, sont parfois impliqués proche des interactions entre les cellules et leur environnement, et contribuent aux fonctions biologiques essentielles. Chez l'homme, la Noy-5-GC est consommée via la consommation de viande rouge, et principalement de produits laitiers de vache. Après ingestion, le Noy-5-GC est absorbé dans les tissus, malgré l'incapacité de l'organisme à le synthétiser. Le système immunitaire reconnaît Noy-5-GC comme une substance étrangère et peut déclencher une réponse immunitaire, produisant des anticorps contre Noy-5-GC. Cette réponse immunitaire peut entraîner une inflammation, qui est supposée jouer un rôle dans divers problèmes de santé, tels que le cancer, les maladies cardiaques et d'autres maladies chroniques. Il existe des preuves suggérant que Noy-5-GC peut avoir un effet sur les articulations, ce qui peut contribuer à l'inflammation et aux affections articulaires. Mon pari est que c'est une substance quelque peu problématique pour les humains, elle conduit à des toxines chez l'homme. Lorsque nos intestins sont plus blessés, il y en a beaucoup qui pénètrent dans la circulation sanguine, et chez les personnes qui savent moins comment y faire face, les Asiatiques par exemple qui n'ont pas été exposés aux vaches comme une personne blanche n'a pas été exposée au riz. Par conséquent, je recommanderais de réduire tout ce qui concerne les produits provenant d'une vache. Qui a besoin de minéraux et de vitamines quand il existe des compléments alimentaires? Il est important de comprendre qu'un manque de minéraux et de vitamines est un symptôme et non le problème. Le problème ne peut pas être corrigé par des suppléments nutritionnels car il contredit la loi centrale, vous ne pouvez pas combattre la nature et il est très dangereux d'être intelligent avec elle. Il n'est possible de corriger l'expression qu'en mangeant librement, céréales fermentées, viande, poisson, produits à base de lait de chèvre et fruits mûrs. Les compléments alimentaires ne sont pas absorbés de la même manière qu'ils sont absorbés par les aliments que nous consommons et il existe des centaines de sous-types et de formes de minéraux. Par exemple, le fer d'origine végétale est très partiellement absorbé par rapport au fer d'origine animale. Les animaux qui ont mangé de l'herbe ont beaucoup plus de minéraux et de vitamines que les animaux qui ont mangé des céréales et un mélange pour les faire grossir. Ce sont tous les animaux commercialisés dans les supermarchés. Si vous mangez des aliments adaptés à l'homme, à base d'aliments pour animaux et de fruits principalement, il n'y a pas besoin de suppléments nutritionnels. La plupart des problèmes de carence en vitamines et en minéraux sont causés par des inhibiteurs de l'absorption, toxines, des minéraux présents dans les légumes, les feuilles, les noix, les racines, les fruits non mûrs, les champignons et les feuilles. Ces répulsifs sont conçus pour empêcher les animaux de manger ces plantes. La plupart des vitamines et des minéraux dont nous avons besoin se trouvent dans la viande des animaux nourris à l'herbe et dans les poissons sauvages. Les minéraux qui manquent habituellement, iode, fer, B12, zinc, oméga-3, Q10 sont souvent dus à une alimentation à base de plantes, graines, céréales, légumes, feuilles, noix et champignons. Selon moi, les suppléments de vitamine D sont inutiles car la vitamine D se trouve dans les graisses animales et c'est là qu'il faut en trouver. Vous êtes le peu dont vous avez besoin. Il est vrai que le corps produit de la vitamine D lorsqu'il s'expose au soleil, mais la majeure partie est destinée à se protéger du soleil et non à une carence en vitamine D. Les probiotiques sont probablement complètement inutiles car sans la bonne nourriture pour les bactéries intestinales, elles mourront et des études ont montré que la chose la plus importante est ce que vous mangez qui affectera les bactéries intestinales. La plupart des gens dans le monde moderne manquent d'iode en raison de la consommation de petits poissons pêchés dans la nature. Les poissons d'étang contiennent une petite quantité d'oméga-3 car il n'y a presque pas d'algues dans les étangs et les poissons obtiennent les oméga-3 en mangeant des algues. Retraitement de la terre en Israël, il n'y a pas de bon test pour la carence en iode et pas supplément d'iode adapté en raison de l'utilisation de substances chimiques et de cultures identiques. La qualité du sol se détériore et nuit à la qualité des légumes et des fruits que vous consommez. Je ne mange pas du tout de légumes. La dégradation du sol provoque un manque de magnésium, de zinc, d'iode et plus encore dans les aliments que nous consommons. L'eau du robinet manque généralement de minéraux essentiels, il est donc préférable de boire de l'eau minérale. Si vous craignez qu'il y ait des fourmis, des insectes, de la poussière, de la terre et des choses naturelles dans les aliments que vous mangez ou là où vous vivez, soyez calme. Ils ne nuisent pas nous, au contraire, ils nous renforcent même. Les éviter provoque des allergies de toutes sortes et non des maladies comme vous le craignez. La plupart des gens manquent d'iode dans le corps et ce manque provoque des problèmes notamment fatigue, constipation et dépression. Corriger la carence est l'un des moyens les plus simples de traiter un déséquilibre de l'iode thyroïde. La carence en iode résulte de l'utilisation répétée de terres agricoles cultivées et pulvérisées et du manque de consommation d'algues et de poissons de mer. Les recommandations pour une certaine quantité quotidienne de vitamines et de minéraux, RDA, supposent que les personnes suivant un régime occidental, où les glucides constituent la majorité de leur alimentation. Ils ne sont pas corrects pour ceux qui mangent des aliments adaptés aux humains. Dans les aliments pour animaux et les fruits, l'absorption des minéraux et des vitamines est bien supérieure à celle des végétaux, et les organes internes de la viande et du poisson contiennent les vitamines et les minéraux les plus nécessaires, difficiles à obtenir d'autres sources. Foie, cerveau, cœur, etc. Il est préférable de mélanger le moins possible et de séparer la nourriture animale de la nourriture végétale. Séparer les graisses et les protéines des glucides. C'est ainsi que mangeaient les anciens. La nourriture qui semble naturelle est l'une des plus dangereuses car elle est trompeuse. Par exemple la pomme de terre, le riz, les haricots, la pastèque, qui sont déconseillés car ils regorgent de lectine. Les aliments naturels ne suffisent pas, car vous devez manger, par exemple, des fruits lorsqu'ils sont mûrs, ainsi que certains légumes, mais en raison de l'allongement de leur durée de conservation, ils sont cueillis non mûrs et cuits de manière non naturelle afin que leurs substances naturelles, les lectines, qui les protègent d'une ingestion prématurée par les nuisibles, restent en grande quantité cuisson, chauffage et la fermentation diminuent généralement la quantité de lectines, mais pas suffisamment. Le point critique ici est que les mineurs ne sont bons pour personne, mais cela affecte certains d'entre nous plus sévèrement et avec des symptômes différents. Essayez de ne pas mélanger les glucides, les protéines et les graisses et de ne pas mélanger du tout les types d'aliments, dans la nature, ils n'apparaissent pas ensemble, uniquement dans KFC. Le mélange provoque des brûlures d'estomac chez de nombreuses personnes, surtout si la graisse est végétale ou si les toxines de la plante provoquent des brûlures d'estomac. Sachez qu'il n'y a pas de brûlure d'estomac lorsque vous ne mangez que de la viande, et peu importe la quantité de matière grasse qu'elle contient. Il est recommandé chaque jour au moins un repas sans glucides, fruits, pain, céréales, etc., pour réguler le mécanisme de contrôler le sucre et les cétones dans le corps. Les cétones, ou corps cétoniques, sont un type de composé organique que le corps produit lorsqu'il décompose les graisses en énergie. Cela se produit généralement lorsqu'il y a une pénurie de glucose, la principale source d'énergie pour les cellules, comme pendant le jeûne, un faible apport en glucides ou un exercice prolongé. Lorsque les niveaux de glucose sont bas, Le foie décompose les acides gras en cétone comme source d'énergie alternative pour le corps et le cerveau. Il existe trois principaux types de corps cétoniques, l'acétoacétate, le bêta-hydroxybutyrate, BHB, et l'acétone. La cétogenèse, le processus de production de cétone, est une réponse métabolique normale à une faible disponibilité du glucose. Cependant, des niveaux élevés de cétone peuvent être dangereux dans certaines conditions, telles que le diabète non traité. Dans ce cas, une maladie potentiellement mortelle appelée acidocétose diabétique, ACD, peut survenir, nécessitant une attention médicale immédiate. L'état de cétose, dans lequel les cétones servent de principale source d'énergie, est à la base d'un régime cétogène. Ces régimes sont riches en graisse et faibles en glucides, et ils visent à induire et à maintenir la cétose pour la perte de poids, l'amélioration de la concentration mentale et d'autres avantages potentiels pour la santé. Auparavant, la plupart des repas étaient sans glucides et aujourd'hui, tous les repas contiennent toujours des glucides. C'est juste une question d'habitude. Dans l'alimentation moderne, la consommation de graisses et de protéines avec des glucides perturbe nos systèmes corporels et envoie des signaux forts au cerveau. Dans la nature, il n'y a pas de combinaison et il n'y avait rien de tel, donc notre cerveau y réagit à l'extrême. Au cours de milliers d'années d'évolution, ils ont mangé du poisson, puis après quelques heures des fruits. Il n'y avait pas de poisson avec du riz et de l'huile d'olive avec du pain dans le même repas. La raison réside dans le fait que dans ce mélange, à la fois la quantité de graisse augmente et le sucre dans le sang augmente, un phénomène rare que le corps ne gère pas bien et un phénomène qui n'est pas accepté dans la cueillette de nourriture et la chasse. Vérifiez-vous avec un test de glycémie. Lorsque les glucides sont transformés et que les graisses sont transformées et non naturelles, la graisse et la glycémie augmentent davantage vers les extrêmes. Cela peut être confirmé en voyant que les diabétiques ont un pourcentage très élevé d'artériosclérose, c'est-à-dire des personnes ayant une glycémie élevée la plupart du temps. Dans cette étude, vous pouvez lire des informations sur des personnes qui vivent comme avant et qui ne souffrent presque pas de problèmes cardiaques à un âge avancé. Les industriels de l'agroalimentaire ciblent ce « bug », chips, pâtisseries, chocolat et ajouts d'huile à presque tout. Les smoothies et les jus ne sont pas bons pour nous. Les chex sont une distillation de tout le sucre du fruit. Nous sommes censés mastiquer et ne sommes pas taillés pour ces quantités de fructose lorsque le fruit est liquide. Une autre chose qui soutient le fait que notre corps n'est pas construit pour les glucides avec les protéines et les graisses est un environnement de pH différent qui est nécessaire pour que les diverses enzymes décomposent les glucides par rapport aux graisses et aux protéines. La décomposition des graisses et des protéines nécessite une acidité plus élevée que la décomposition des glucides, et bien sûr, vous ne pouvez pas atteindre ces deux valeurs en même temps, lisez ici l'acidité dont chaque type d'enzyme a besoin. Près de la nourriture. Il est préférable de boire une heure après avoir mangé ou une heure avant. Il n'y a pas d'études ou de science à ce sujet, donc j'exerce ma libre pensée et je suppose que les anciens n'avaient pas d'eau disponible tout le temps et donc nous avons évolué pour ne pas boire en mangeant. Il est logique de réduire l'acidité en diluant les sucs gastriques. Pourquoi n'y a-t-il pas un choix naturel pour l'alimentation de la luzerne aujourd'hui? Pendant les 10 000 dernières années depuis la révolution agricole, il y avait un choix naturel pour faire face au nouveau régime alimentaire du blé, du lait, des racines, etc. Mais il y a aussi des problèmes. Au cours de ces années, tout le monde n'a pas été exposé à la même nourriture et ce n'est que ces dernières années qu'ils ont exposé tous les humains à tous les aliments. L'homme blanc n'a pas été exposé au riz et les Asiatiques n'ont pas été exposés au blé. Les Noirs n'ont pas été exposés au blé et au lait et on constate en effet qu'elles sont beaucoup plus sensibles au lait et à l'engraissement que le blé. Un régime qui tue généralement après l'âge de procréer, comme le blé, les légumineuses, les pommes de terre, le tabac, etc. Mais cause de la souffrance avant n'affecte pas l'évolution, donc il est aussi difficile de comprendre qu'il n'est pas adapté à ma génération à personne. Autrefois, l'âge moyen des petits chasseurs était de 40 ans, celui des citadins de 50 ans, de sorte que les maladies d'aujourd'hui, qui sont en fait une forme d'empoisonnement, semblent sans rapport avec l'alimentation susmentionnée. Ces populations sont souvent mortes d'infections et de violences plutôt que des maladies d'aujourd'hui. Ne jeûnez que le jour de Yom Kippour, l'évolution humaine a été caractérisée par de nombreux cas de pénurie alimentaire. Des études indiquent que la restriction calorique et le jeûne peuvent entraîner une longévité accrue chez les animaux. Matson et Hall, 2017, Mitchell et Hall, 2016. Les humains sont également capables de survivre sans nourriture pendant plusieurs semaines, grâce à nos processus métaboliques adaptatifs. Dans certains cas, Il a été démontré que le jeûne aide à traiter certaines conditions médicales, de Cabot et Matson, 2019. Cependant, notre corps est entraîné à signaler quand il a besoin de nutrition et quand il ne veut pas manger, il est donc important de prêter attention à ces signaux. Bien que le jeûne puisse offrir certains avantages, il peut également entraîner une détresse mentale inutile. Par exemple, jeûner pendant 3 jours pour prolonger la vie de 3 jours ne peut pas être un compromis bénéfique, car cela entraîne 3 jours de famine. Une approche plus pratique pour optimiser la nutrition et la santé peut inclure la mise en place d'une fenêtre d'alimentation ou d'un jeûne intermittent, Gabel et Hall, 2018. Cette méthode permet au corps de vivre de courtes périodes de jeûne tout en fournissant les nutriments nécessaires et en évitant un stress mental excessif. 2 repas par jour avec une fenêtre d'alimentation pouvant aller jusqu'à 10 heures. Vous pouvez utiliser la logique et en plus vérifier sur nous-mêmes ce qui vous semble le plus confortable pour chez certaines tribus indiennes de la région des plaines. Il était de tradition de manger 2 gros repas par jour, un le matin et un le soir. Cela était généralement complété par de petites collations tout au long de la journée. Cette pratique a été partiellement influencée par leur mode de vie nomade, qui était basé sur la chasse et les obligeait à être mobiles et flexibles dans leur alimentation. De même, certaines communautés autochtones en Afrique, comme les Maasai, ont pour habitude de manger 2 gros repas jour, une le matin et une le soir. Le régime Maasai se composait traditionnellement principalement de lait, de viande et de sang de bétail. Loi de Hooke, vérifiée sur moi-même dans les lois sur le profit, il y a la « loi de Hooke ». Quand je me regarde, les plus reposés et les plus naturels pour moi sont 2 grands repas par jour. Je fais généralement 2 repas par jour, un à 6 heures du matin et un autre à 14 heures, ce n'est pas exact mais en général. De gros repas, pas des petits. Il y aura généralement du pain au teff levé directement du four. J'ai remarqué que lorsque je mange beaucoup de petits repas, je ne me sens pas alerte et énergique, vous ne pouvez pas l'ignorer. Des études scientifiques montrent qu'il y a un avantage à manger à 10 heures par jour, disons de 10 heures du matin à 6 heures du soir. Mangez 2 à 3 repas concentrés par jour et attendez 5 à 6 heures entre les repas, bien sûr en repas concentrés. L'attente entre les repas est le moment où l'estomac se vide. De plus, la science montre que ce n'est pas le cas lorsque vous ne mangez pas au moins 2 heures avant d'aller vous coucher. Tu vas dormir, comme ça le sommeil et la digestion seront bien meilleurs. C'est comme ça que les anciens faisaient aussi témoignage d'une personne qui vivait avec les Indiens d'Amérique sont connus pour avoir mangé 2 repas par jour. Ma vie parmi les Indiens, George Catlin. Selon son témoignage, ils étaient magnifiquement bâtis, droits et heureux, notamment les dents blanches et droites, sans dentifrice, vivaient de viande de buffle, de maïs et de fruits. Ce sont bien sûr les Indiens qui n'ont pas été en contact avec la modernisation. Il y a aussi une raison logique, dans la pensée libre. Nous recherchons les faits avec logique, et ne nous contentons pas de penser « Oh, c'est comme ça que les Indiens mangeaient ». La logique est qu'en mangeant, nous blessons les intestins, tout comme en courant quand vous blessez les muscles et les articulations, et vous devez leur laisser le temps de guérir. Plus la nourriture est transformée et non naturelle, plus ils sont blessés. Manger à la fenêtre ressemble à manger dans le passé, quand ils étaient occupés à trouver de la nourriture et à s'occuper de l'abri pour les enfants. D'un point de vue évolutif, notre corps n'est pas fait pour manger toute la journée et nous le constatons lorsque des niveaux élevés de sucre endommagent tous les systèmes de l'organisme. Manger toute la journée signifie inévitablement que notre sucre sera élevé toute la journée, surtout si nous mélangeons glucides, protéines et lipides. Ici, vous voyez à nouveau que la science se connecte à la logique et aux observations, puis il y a une belle pensée libre. Les parents sont-ils toujours à blâmer? Un régime pratique pour les parents, tel que des cornflakes avec du lait, explique clairement pourquoi il est populaire. Il peut être préparé à tout moment, les ingrédients sont conservés au réfrigérateur et il est même facile de nettoyer la vaisselle. Bien sûr, cela ne convient pas aux enfants et nuit à leur santé. Les céréales non fermentées et le lait de vache ne conviennent pas à l'homme. Ce qui a été prouvé, c'est que chaque personne a une capacité finale à dire non, donc la seule façon d'amener les enfants à manger des aliments adaptés est de ne ramener à la maison que des aliments qui conviennent pour les humains. Le corps veut survivre aujourd'hui, demain est moins intéressant pour l'évolution du corps, le nôtre veut survivre à court terme sur le long terme, donc le corps mobilise des minéraux et des vitamines pour soutenir des systèmes qui contribuent à court terme survie. Cela signifie que les systèmes à longue portée sont affectés en premier lorsqu'il y a une carence d'un minéral particulier. Par exemple, La vitamine K est utilisée pour la coagulation du sang et non pour la prévention de la calcification artérielle en cas de carence. Recherche et entretien au sujet de Broussam. Cela explique bien pourquoi les maladies commencent après des années de manque de vitamines et de minéraux, dont beaucoup sont causés par des toxines qui empêchent l'absorption dans les plantes. Nom de code, fibres nutritionnelles. Vous pouvez très bien vous débrouiller sans fibres alimentaires et c'est mieux sans. Ils ne sont pas digérés et empêchent souvent l'absorption des minéraux. Une alimentation inuite dépourvue de fibres ne les affecte guère. Les fibres peuvent aider ceux dont le régime alimentaire est pauvre en toxines provenant de plantes et d'aliments transformés. Aucune étude ne montre que les fibres nous aident en quoi que ce soit. Il s'agit d'une légende populaire sans fondement logique et scientifique. Les aliments riches en fibres contiennent généralement beaucoup de toxines antinutritionnelles, haricots, noix, céréales et plus encore. Dans les fruits, les fibres alimentaires aident à modérer l'absorption du sucre dans le sang et en effet les fruits mûrs sont adaptés à l'homme. De nouvelles substances pour un nouvel organisme? D'un point de vue évolutif, il est logique que certaines substances ou aliments auxquels les humains n'ont pas été exposés historiquement pourraient être nocifs pour notre santé. Nos corps ont évolué au cours de milliers d'années pour s'adapter aux aliments qui ont été disponibles pendant la majeure partie de notre histoire évolutive. Des changements alimentaires soudains causés par l'agriculture, la transformation des aliments et l'industrialisation peuvent remettre en question la capacité de notre corps à traiter et à métaboliser efficacement ces nouvelles substances. Considérons le fructose, les céréales et les huiles raffinées comme exemple. Plus fructose. Bien que le fructose soit un sucre naturel présent dans les fruits, la quantité et la forme de fructose dans l'alimentation moderne sont très différentes de ce que nos ancêtres consommaient. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, HFCS, une forme hautement concentrée de fructose, est devenu un édulcorant courant dans les aliments et les boissons transformées. La recherche a établi un lien entre une consommation excessive de fructose et des problèmes métaboliques, tels que la résistance à l'insuline, l'obésité et la stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD, Cohen, L, Esperluette Morand, Y, 2017, Softic, S, Cohen, 2, Esperluette Kahn, CR, 2016. Ces problèmes de santé peuvent être attribués au fait que le fructose est métabolisé principalement dans le foie, et un excès de fructose peut surcharger cet organe, entraînant des sous-produits métaboliques nocifs et une accumulation de graisse. De céréales, qui constituent aujourd'hui une grande partie de nombreux régimes alimentaires modernes. Cependant, cette période relativement courte en termes d'évolution n'a peut-être pas laissé suffisamment de temps à notre système digestif pour s'adapter pleinement à la consommation de céréales. Par exemple, le gluten, une protéine présente dans le blé et d'autres céréales, peut déclencher des réactions auto-immunes chez les personnes sensibles, conduisant à la maladie cœliaque, la MERS, kilomètre, LU, R, Brownlee, J, LU, B, Gérard, C, Thomas, K, Esperluette Fasano, A, 2008. De plus, certains chercheurs affirment que la teneur élevée en glucides des céréales peut contribuer au développement de l'obésité et du diabète de type 2, Cordin, L, Eaton, SB, Sébastien, A, Mann, N, Lindeberg, S, Watkins, Ba, Esperluette Brandt-Miller, J, 2005, plus huile raffinée. La production industrielle d'huile végétale raffinée a introduit un changement significatif dans les types et les proportions d'acides gras dans l'alimentation moderne. Ces huiles, telles que l'huile de soja, de maïs et de tournesol, sont riches en acides gras polyinsaturés oméga 6. Un rapport élevé d'acides gras oméga 6 et oméga 3 a été associé à une inflammation accrue et à un risque plus élevé de maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires et le cancer, Simopoulos, AP, 2002. Nos ancêtres consommaient probablement un rapport plus équilibré de ces acides gras, ce qui aurait favorisé la santé générale et réduit l'inflammation. D'un point de vue évolutif, l'introduction rapide de substances nouvelles ou changeantes telles que le fructose, les céréales et les huiles raffinées dans l'alimentation humaine a des effets négatifs. Conséquences sur la santé. Notre corps n'a pas eu assez de temps pour s'adapter à ces changements, ce qui a entraîné divers problèmes de santé lorsque ces substances sont consommées. Voilà ce que je mange. Pain ancien recommandé que je mange tous les jours, uniquement de la farine ordinaire et de l'eau. Laissez dans un bol pendant 2 à 3 jours. Mettez au four, Ninja 175 degrés c'est mieux, pendant 30 minutes et le pain est fin. Après il y a du levain, Il ne faut pas attendre 3 jours pour mélanger de la nouvelle farine car la levure naturelle est déjà dans le levain et fait le travail en quelques heures. Après une journée à l'extérieur en ajoutant de la nouvelle farine, vous devez mettre le bol au réfrigérateur afin qu'il n'y ait pas de moisissure. Dans la machine à laver, il y a un grand bol de pâte levée dans lequel on prélève de la pâte quand on veut et on fait du pain frais en 25 minutes petit déjeuner que j'aime beaucoup. 2 à 3 bananes plantains au four. Ninja c'est mieux 25 minutes à 175 degrés. Figues et myrtilles. Yaourt de chèvre aux myrtilles. Clémentines et oranges. La nourriture n'est pas là et n'attend que vous pour la cueillir à cause de la concurrence pour la nourriture dans la nature et aussi du désir des plantes de survivre. Il n'y a pas de situation de manger sans effort. S'il n'y a aucun effort, vous devriez demander pourquoi. Il existe des preuves dans les archives archéologiques que les premiers Homo sapiens et leurs ancêtres ont consommé de la moelle osseuse en examinant les marques laissées sur les os trouvées sur divers sites préhistoriques. Les marques sur les os, telles que les marques de coupe, les marques de percussion et les modèles de fractures, peuvent fournir des informations sur les comportements des premiers hominidés, y compris leurs habitudes alimentaires. Les marques de coupe sur les os indiquent que des outils en pierre ont été utilisés pour retirer la viande des os, tandis que la percussion les marques suggèrent que les os ont été intentionnellement brisés pour accéder à la moelle à l'intérieur. La moelle osseuse est une source alimentaire très nutritive, riche en graisses, vitamines et minéraux. La consommation de moelle osseuse était bénéfique pour les premiers humains, car elle fournissait l'énergie et les nutriments nécessaires à la survie, au développement du cerveau et à la croissance globale. Voici quelques exemples de sites archéologiques présentant des preuves de consommation de moelle osseuse, plus Swartkran, Afrique du Sud. Ce site, qui remonte à environ 1,8 million d'années, a donné des os avec des marques de percussion, ce qui suggère que les premiers hominidés, tels que Paranthropus robustus, ont cassé les os pour accéder à la moelle. Plus Olduvai Gorge, Tanzanie. Ce site, datant d'environ 1,8 million d'années, contient des os avec des marques de coupe et de percussion, indiquant que les premières espèces d'homo, telles que l'Homo habilis, ont traité des carcasses d'animaux et ont accédé à la moelle osseuse. Marc, indiquant que Homo Early et Heidelbergensis consommaient de la moelle osseuse. Ces exemples démontrent que les premiers Homo sapiens et leurs ancêtres consommaient de la moelle osseuse, comme en témoignent les traces laissées sur des ossements trouvés sur des sites préhistoriques. Ce comportement a apparemment joué un rôle important dans l'évolution humaine, fournissant des nutriments essentiels à la survie et au développement. Le cerveau humain s'est développé avant l'invention du feu il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Il semble logique que manger la moelle osseuse des grands animaux ait permis à l'homme de manger facilement nourriture énergétique et facile à mâcher sans chauffage, mais ils étaient confus. A pu obtenir des outils pour effectuer la tâche. L'homme travaillait dur pour chercher des carcasses, puis casser les os et atteindre la moelle osseuse. Les Mongols vivaient de viande et de lait. Les Mongols classaient la nourriture en deux groupes. Oulanidés étaient des aliments rouges, comme la viande, consommés principalement en hiver et au printemps. Les Tsagaanidés étaient des aliments blancs, comme les produits laitiers, consommés principalement en été et en automne. Les légumes étaient considérés comme un type d'herbe et appelés « nourriture de chèvre ». Les Mongols étaient très dégoûtés que les agriculteurs mangeaient des plantes qui poussaient dans la terre et étaient souvent fertilisées avec des excréments. Aujourd'hui, l'espérance de vie des Mongols, 70, est inférieure à celle des Japonais, 80+. Il est logique que cela soit dû à l'ajout de farine, d'alcool et de tabac qui est très courant en Mongolie et aussi qu'il ne mange pas de fruits quand il a faim, et il ne boira que lorsqu'il aura soif. Incroyablement précis. Le corps sait très bien nous signaler 3, B. Une personne ne mangera pas tant que son ventre n'est pas plein, mais au moins au quart de sa plénitude. Et il ne boira pas d'eau dans la nourriture, mais un peu est mélangé avec du vin, et quand la nourriture commence à être mangée dans ses intestins, il boit ce qu'il a besoin de boire. Et il ne devrait pas boire beaucoup d'eau, même lorsque la nourriture est consommée. Et il ne mangera pas jusqu'à ce qu'il s'examine correctement, de peur qu'il ne soit percé. Vous devez manger jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim. Chaque personne a une quantité différente, ce qui est important c'est ce qui est mangé et non combien. La partie où il est vrai qu'il n'est pas bon de boire avec de la nourriture, ni avant ni après. Une autre activité. En règle générale, son corps réagira et il touchera tous les jours le matin jusqu'à ce que son corps commence à se réchauffer, et il se reposera un peu jusqu'à ce que son esprit se calme et qu'il mange. Et s'il s'est baigné dans un bouillon après un fou, alors c'est bien, et puis reste un peu, et mange. Ce n'est pas vrai. C'est une déclaration désinvolte sans logique ni science. C'est. Pour toujours, quand une personne mange, elle doit s'asseoir à sa place ou se pencher vers la gauche. et il ne marchera, ni ne chevauchera, ni ne touchera, ni ne secouera son corps, ni ne marchera jusqu'à ce que la nourriture dans ses intestins soit mangée, et quiconque voyage après sa nourriture ou est fou, après tout, cela s'attire des maladies graves et graves. La logique est vraie, mais à mon avis, elle n'est pas exacte et n'est pas basée sur la science ou des observations. Et, D, le jour et la nuit, 24 heures. Il suffit à une personne de dormir 3 heures, soit 8 heures, et ils le seront à la fin de la nuit, de sorte qu'il se passera 8 heures entre le début de son sommeil et le lever du soleil, et qu'il se trouvera debout de son lit avant que le soleil ne se lève. Avec l'âge, les heures de sommeil diminuent. Dans les tribus, ils sont d'environ 7 heures. 7, E. Une personne ne doit pas dormir ni sur son visage, ni sur son dos, mais sur son côté au début de la nuit sur le côté gauche, et à la fin de la nuit. Nuit sur le côté droit. Et il ne dormira pas près de manger, mais attendra après avoir mangé pendant environ 3 ou 4 heures. Et il ne dormira pas pendant la journée. Ce n'est pas vrai. Le couchage préféré se fait sur le dos avec les genoux relevés. C'est ainsi que dorment les Indiens. Il soutient le dos ainsi que la respiration du FH, et, des choses qui laxatifient les intestins, comme les raisins et les figues et les fraises et les poires et les pastèques et les entrailles des courgettes et les entrailles des concombres, une personne les mange d'abord, avant de manger. Et ne les mélange pas avec la nourriture, mais reste un peu jusqu'à ce qu'ils sortent de leur ventre supérieur, et manger sa nourriture. Et les choses qui soutiennent les intestins, comme les grenades et les abricots et les pommes et le crostamelin, je vais les manger tout de suite pour sa nourriture, et pas beaucoup. Il y a peu de fruits qui sont recommandés pour manger. Tout ce qui provoque la diarrhée est un signe certain qu'il ne convient pas aux humains. 9, 7. Lorsqu'une personne veut manger à la fois de la viande de poulet et de la viande animale, elle mange d'abord la viande de poulet. En plus des œufs et de la viande de poulet, je mange d'abord des œufs. La viande d'un animal maigre et la viande d'un animal grossier, je mange la viande maigre d'abord. Une personne préférera toujours la chose légère d'abord, et la chose lourde ensuite. C'est une invention. 1. 8. Les jours chauds, je mange des aliments froids, et je n'ajoute pas beaucoup d'épices, et je mange du vinaigre. Et les jours de pluie, je mange de la nourriture mijotée, et beaucoup d'épices, et je mange un peu de moutarde et d'oignons verts. Et c'est ainsi qu'il va et fait dans les lieux froids et dans les lieux chauds, en tout lieu et en tout lieu, comme il lui convient. Personne de ne jamais les manger, comme le vieux gros poisson salé, et le vieux fromage salé, et la truffe et les champignons, et la vieille viande salée, et le vin qui en est tiré, et un ragoût qui a été laissé jusqu'à ce qu'il sente bon s'est dissipé, et tout aliment qui sent extrêmement mauvais ou amer, après tout, ce sont pour le corps, comme le poison de la mort. Les poissons sont bons à manger, peu importe leur taille. Il vaut mieux éviter les champignons et le sel en général. 12 Et il y a des aliments qui sont mauvais, mais pas comme les premiers à être mauvais. Par conséquent, il convient qu'une personne n'en mange qu'un peu et après plusieurs jours, et qu'elle ne s'habitue pas à en être nourrie ou à en manger toujours avec sa nourriture, comme les gros poissons, le fromage et le lait, qui a été traite pendant 24 heures, et la viande de gros bœufs et de grosses chèvres, et les haricots, les lentilles et le saphir, et le pain d'orge, le pain matza, le chou, le foin, les oignons, l'ail, la moutarde, et le radis. Tous ces aliments sont mauvais. En partie vrai. Tous les légumes, légumineuses, racines sont toxiques pour l'homme. Le lait de chèvre fermenté est bon pour nous. Le lait de vache est très problématique pour la plupart des gens. 13 Il n'est pas convenable pour une personne d'en manger sauf très peu, et les jours de pluie, mais pas pendant les jours de pluie, il n'en mangera pas du tout. Et les haricots et les lentilles seules, il n'est pas approprié de les manger, ni les jours chauds ni les jours de pluie. Et les deux luins, on en mange un peu les jours chauds. Hamzata. Yid. 10. Et il y a des aliments qui sont mauvais, et pas comme ceux-ci, et ce sont les oiseaux aquatiques, et les tourterelles, et les dattes, et le pain grillé dans l'huile ou le pain qui a été trempé dans l'huile, et la semoule qui a été tamisée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur, et le bouillon et les morets. Il n'est pas bon d'en manger trop, et une personne qui est sage et conquiert son désir, et ne suivra pas son désir et ne mangera rien de tout ce qui est mentionné, à moins que nous n'en ayons besoin pour la médecine, après tout, c'est un héros partiellement vrai. Les oiseaux aquatiques et les pigeons nous sont supérieurs. 12, 11. Personne ne se privera jamais des fruits des arbres sauvages, et n'en mangera pas beaucoup, même secs, et nous n'avons pas besoin de dire mouillés. Mais avant que tous leurs besoins soient cuits, Ils sont comme des épées pour le corps. Et les caroubes, mauvaises pour le monde. Et les fruits du chutney sont mauvais, et personne n'en mange qu'un peu pendant les journées chaudes et dans les lieux de chemin. Et les figues, les raisins et les amandes sont bons pour toujours, qu'ils soient humides ou secs, et l'homme en mange tout ce dont il a besoin. Mais les manger ne durera pas, même s'ils sont meilleurs que tous les fruits de la nature. Les amandes sont vraiment toxiques pour nous. 16, 12. Le miel et le vin sont mauvais pour les jeunes et bons pour les vieux, surtout les jours de pluie. Et une personne devrait manger les jours chauds, les deux tiers de ce qu'elle mange les jours de pluie. Le miel est bon pour nous. Le vin n'est pas bon pour nous. 17, 13. Une personne essaiera toujours de garder ses intestins doux toute sa journée, et elle se rapproche d'une petite diarrhée. Et c'est une grande règle en médecine que tant que la vision est évitée ou sort avec difficulté, de nombreux patients viennent. L'opposé. Il souffrait probablement de quelque chose proche de la diarrhée à cause des légumes et autres qu'il mangeait. Ça devrait être dur. La science le confirme. 18 Et qu'est-ce qu'une personne perdrait de son estomac, si nous faisions un petit effort, s'il était un homme? Il mangerait des collations salées assaisonnées d'huile et de morée et de sel le matin, sans une bouchée. Ou il boira de l'eau d'une gomme laque de navet ou de chou avec de l'huile, du sel et des épices. Et s'il était un vieil homme, il buvait du miel mélangé à de l'eau dans un bouillon le matin, et il attendait environ 4 heures, puis il mangeait son repas. Il fera cela jour après jour, 3 ou 4 jours si nécessaire, jusqu'à ce que son estomac lui brûle. L'huile végétale est vraiment toxique pour nous. 19. YD. Et une autre règle qu'ils ont dite dans la création du corps, tant qu'une personne s'exerce et touche beaucoup et n'est pas pleine, et que ses intestins sont lâches, aucune maladie ne lui vient. Et sa force est renforcée, même s'il mange les aliments du mauvais. Ah. Et quiconque est assis à coup sûr et ne fait pas d'exercice, ou qui interrompt ses piercings ou dont l'ouïe est difficile, même s'il mange de bons aliments et se maintient selon la médecine, tous ses jours seront douloureux et sa force échouera. Et la nourriture grossière est comme le poison de la mort pour le corps de chaque personne, et c'est la chose principale pour tous les malades. Invention. La plupart des maladies qui arrivent à une personne ne sont qu'à cause de mauvais aliments, ou parce qu'il remplit son estomac et mange des aliments grossiers, même de bons aliments. Celui dont Salomon dit dans sa sagesse, garde sa bouche et sa langue, protège son âme des ennuis, Proverbe 21h23, c'est-à-dire qu'il garde sa bouche de manger de la mauvaise nourriture ou du jeûne, et sa langue de parler sauf pour ses besoins. La plupart des maladies proviennent d'aliments qui ne conviennent pas aux humains qu'ils mangent. C'est la partie correcte. 21. 16. La façon de se baigner qu'une personne entre dans le bain de 7 jours à 7 jours, et il n'entrera pas près de manger et pas quand il a faim, mais quand la nourriture commence à digérer. Et il baigne tout son corps dans un bouillon qui ne brûle pas le corps, et seulement sa tête dans un bouillon qui brûle le corps. Et puis il baignera son corps dans le foucharin, puis dans le foucharin du foucharin, jusqu'à ce qu'il se baigne dans le froid, et il ne passera pas du tout au-dessus de sa tête, ni tiède ni glacée. Et il ne se baignera pas dans le froid, les jours de pluie. Et il ne se baignera pas jusqu'à ce qu'il transpire et que tout son corps soit épuisé, et ne s'attardera pas dans le bain, mais quand il transpire et que son corps devient raide, il se lave et sort. Partiellement vrai. Une douche froide nous fait du bien. La science et la logique le soutiennent. Un repas sur les épaules de géants. La première façon qui m'a semblé très logique était celle d'Esther Gokel, qui a même écrit sur la posture correcte, mais elle l'a résolue en regardant comment les anciens s'asseyaient et se tenaient debout, et c'était quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais il était aussi génial pour la solution de que sommes-nous censés manger, ce qui est bon pour nous en général de regarder ce que les anciens mangeaient et comment ils se comportaient et bougeaient, non pas pour tout copier mais faire preuve de logique et copier ce qui est bon pour nous. Le livre qui m'a expliqué qu'il pouvait y avoir un problème avec le blé après qu'il ne me paraissait pas logique que seules certaines personnes soient sensibles au gluten et « Ventre de blé » du docteur William David, je l'ai écouté sur Audible et il est également disponible en hébreu. Un autre livre qui explique la science derrière la graisse et la viande est « The Big Bluff of Cholesterol ». À travers le livre, nous comprenons que la graisse est en fait bonne pour nous d'animaux et non de plantes, et c'est lié à ce que les anciens avaient l'habitude de manger. Quand il y a un croisement entre la logique et la science et l'observation historique, alors il y a du craquement. Et puis quand je parle de ces livres à mon cousin du monde arabe, il me lance un bon livre intitulé « Le paradoxe des plantes », par un chirurgien cardiaque des USA. Ici, c'était vraiment une percée. Gendry a dit qu'il y avait toutes sortes de toxines dans toutes sortes de racines, de feuilles et en général des choses de la plante afin que nous ne les mangions pas. L'erreur de Gendry est qu'il a dit que certaines plantes l'ont de manière problématique, mais la vérité est que toutes les plantes l'ont. Il était vraiment un pionnier, mais la recommandation du livre aurait dû être d'éviter complètement les aliments végétaux, sauf pour les fruits mûrs et l'acidité. Trempage et germination qui réduisent considérablement les toxines qu'une famille l'un d'eux sont les lactanes. C'était fou surprenant, mais quand j'ai fait des recherches sur les toxines, j'ai découvert qu'il avait raison. Quand j'ai retiré les plantes de mon menu, les petits maux de ventre gênants que j'avais complètement disparu. Pouf, ils sont partis. Ensuite, il y a eu une combinaison étonnante de science, de logique et d'expérience personnelle sur moi-même. Il y a du crack dans un régime gratuit. Après cela, je suis tombé sur une conférence d'un médecin australien très intelligent, Paul Masson, qui comme moi va avec ce qui est juste et non avec le courant. Il explique de manière scientifique les effets des toxines végétales sur notre corps. Sa voix est différente de la mienne parce qu'elle est basée uniquement sur la science sans beaucoup de logique et d'évolution. Je combine tout même si je suis faible en sciences biologiques, mais je sais reconnaître des sages comme Paul, qui a excellé dans une université eucharistique en Australie. Et oui, ces choses sont importantes et en disent long. Dans chaque livre que j'ai lu, une conférence venant d'Internet, Louis est généralement vrai à 70% et fausse à 30%, cela nécessite un diagnostic sérieux pour prendre ce qui est vrai de chaque livre, et c'est ainsi que j'ai concocté Free Nutrition. Un joli test de nourriture. Acide ou épicé? Si la réponse est oui, alors c'est un aliment, gratuit, et adapté à l'homme. Bien sûr, les manger cuits, c'est mieux, mais c'est juste pour vérifier si la nourriture convient à l'homme. Cela ne signifie pas ne pas manger les autres aliments, c'est juste un outil qui clarifie ce qui nous convient. Les humains ont commencé à utiliser le feu au cours des dernières centaines de milliers d'années par rapport à plusieurs millions d'années d'évolution. Si un certain aliment n'est pas possible de manger sans cuisson ou chauffage, cela signifie qu'il est entré dans notre alimentation, récemment, comme le pain, les plantes, etc. Tous les types de viande peuvent être consommés crus, ils conviennent donc pour les humains, les fruits mûrs, aucune action n'est nécessaire, ils conviennent donc aux humains poissons, poissons comestibles en mouvement, donc adaptés aux humains grains, c'est impossible pour les manger sans cuisson ni cuisson. Donc ne convient pas aux humains. Feuilles, amères ou acides, donc ne conviennent pas aux humains. Noix, un peu amères, donc ne conviennent pas aux humains. Légumineuses, dures et amères sans cuisson et également toxiques, donc ne conviennent pas aux humains. Lait, vous pouvez boire du lait directement de la chèvre, donc adapté aux humains. Le lait de vache aussi, mais beaucoup de gens y sont sensibles en raison de sa différence avec le lait qu'ils boivent depuis des milliers d'années. Légumes, la plupart d'entre eux sont amers ou épicés crus, ne conviennent pas aux humains.